Europe 1.
Europe 1.
16h-18h, l'équipée sauvage.
2 heures avec Mathieu Noël pour sourire, se divertir et s'informer. Oui, 2 heures rieuses et informatives donc, avec des invités d'honneur. Camille Chameau, Louis Chédid, Thomas Dutronc, Stéphane Plaza, la réalisatrice de LOL, Lisa Zuelos. Avec également une complice, Eva Rock, et puis avec des journalistes compétiteurs, puisque l'équipe est sauvage, c'est un concours quotidien de la meilleure chronique. Alors au programme de cette première heure, un jeu vidéo pour soigner l'hyperactivité et le déficit de l'attention, le Discard Day, la fête du vinyle, c'était hier, des livres pour les vacances, ou encore la programmation télé d'Eva Rock, l'équipe est sauvage, les meilleurs moments, c'est parti.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'Équipée Sauvage, une compétition acharnée chaque après-midi opposant les meilleurs journalistes de la rédaction. Tous les coups sont permis, aucune règle d'honneur ni de politesse, un seul but, gagner et empêcher son adversaire de gagner, quitte parfois à jouer un peu avec la légalité. Bref, remporter l'Équipée Sauvage, c'est l'équivalent en journalisme de trouver un appart à moins de 10 000 du mètre dans Paris, c'est hyper dur. Mais je crois que nos deux premiers concurrents du jour sont prêts.
En garde, espèce de vieille pute dégarnie!
Ah, vous en prie, Fred. Non, madame n'est pas une vieille pute dégarnie, c'est une spécialiste média. Bonjour Eva Rock.
D'accord, ça commence bien. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Oh, Eva, parfois je m'en veux de sortir des sons comme
ça. Vous avez raison.
Accueillons notre invité d'honneur aujourd'hui, vous l'avez
qui
compris,
est déjà en train de se
on
marrer.
Va parler immobilier. Or, pour parler immobilier, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, Eva.
Michel Sardou. Hein.
Exact, elle n'était pas dispo, donc on a fait appel à Stéphane Plaza. Ce qui est pas mal, vu que c'est quand même l'agent immobilier le plus célèbre de France. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour.
Dès lundi sur M6 à 18h40, on va retrouver des inédits de l'émission culte Chasseur d'appart. Qui peut battre Stéphane Plaza?
Ah, c'est la version
alors,
qui peut battre.
Là, vous serez à Toulouse. Oui. Le concept est simple. Dans 10 grandes villes, des agents immobiliers locaux doivent essayer de vous battre, c'est-à-dire vendre un bien à des clients avant vous.
C'est ça.
C'est pas possible. Vous êtes le meilleur, Stéphane.
Si ça arrive, parce qu'il y a quelques handicaps. Je présente qu'un seul bien. Je viens une journée avant. Et eux, ils ont 2 biens. Et puis, je connais moins bien la région. Mais
oui, c'est ça.
J'essaye quand même de. Voilà, sur Toulouse, j'ai fait appel à quelques internationaux de rugby, par exemple. Je fais jouer mon réseau. Je promets beaucoup de choses. Et je joue pour une association. Donc, j'évite de perdre.
Ah oui, parce que oui, si les agents locaux remportent,
ils
remportent
quelques,
une somme, 3000 euros. Mais vous, c'est directement pour une association.
Je donne à une association.
Parce que vous
locale.
N'avez plus besoin, effectivement.
J'ai plus besoin d'argent, j'ai trop, je donne.
Stéphane, vous tombez vraiment à pic, déjà parce que c'était votre anniversaire mardi.
Oui.
Et
merci.
Donc, on voulait, avec
super
les moyens d'Europe 1, marquer le coup. Oui, vous êtes sur Europe 1. D'autre part, parce que Chasseur d'appart qui peut battre Stéphane Plaza revient dès lundi sur M6, on va en parler en long et en large. Et puis surtout, le marché de l'immobilier s'était arrêté durant le confinement, il a repris. Mais dans quel état est-il? Est-ce le moment d'acheter? Les prix vont-ils baisser? On a 1000 questions à vous poser, Stéphane. C'est pourquoi ma première est la suivante. Est-ce que vous n'en avez pas marre que, où que vous alliez, émission, dîner, dans l'ascenseur, à la boulangerie, tout le monde a toujours 1000 questions à vous poser sur l'immobilier? Ça doit être vraiment le seul revers de la médaille à votre succès.
Oui, mais enfin, ça me permet aussi d'entretenir des commissions d'agence et de bien vivre, soyons honnêtes. Hein, donc, je réponds avec plaisir, parce que je me dis, je donne, ça va me revenir.
Oui, mais alors ça, c'est dans le cadre des agences, oui. Quand vous êtes payé. Mais j'imagine que vos amis, tous les gens qui ont votre 06, dès qu'ils ont un projet immobilier, ils appellent
leur demande avant une enveloppe financière. Maintenant, je donne mes conseils seulement contre une enveloppe. Hein, enfin, ou des tickets de concert ou autre chose. Hein, voilà.
Il est l'agent immobilier le plus célèbre de France. Stéphane Plaza nous explique comment tirer notre épingle du jeu sur un marché qui redémarre.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Le marché immobilier va-t-il repartir à la hausse ou à la baisse? Dans quelle région faut-il investir? Y a-t-il vraiment, comme on l'entend, une ruée sur les biens avec terrasse ou espace extérieur? On ne pouvait pas rêver mieux cet après-midi que d'avoir en studio avec nous Stéphane Plaza, un agent immobilier rompu à toute situation, même les plus critiques.
Il y a de la place, on peut imaginer plein de choses.
Mais il y a une chose que Stéphane est loin de s'imaginer et qui se trouve juste là, à côté de lui.
Ça, c'est le fantôme de ma chatte.
Le
fantôme de ma chatte. Il s'appelait Mimi.
Je peux me permettre de prendre ta chatte dans les bras?
Eh oui, parfois, c'est un dur métier, hein. Stéphane Plaza, on est ravis de vous avoir cet après-midi. Évidemment, évidemment.
Il y a des situations tellement incongrues que vraiment, c'est...
Vous remettez ça dès lundi à 18h40 sur M6, Chasseur d'appart, qui peut battre Stéphane Plaza? On avait ces questions, est-ce que c'est le moment d'investir, tout ça? Est-ce que surtout le confinement, ça n'a pas poussé les agences immobilières à se renouveler? Moi, je vois, parce que je suis assez intéressé par l'immobilier, de plus en plus d'agences de visite, d'annonces de visite en 3 dimensions. Et j'ai l'impression que ça se généralise, alors qu'avant, c'était extrêmement rare, ce genre de présentation.
Oui, en fait, la première étape, c'est peut-être de faire de la 3D ou en tout cas des petits films ou des teasers et d'envoyer pour essayer d'exciter l'acheteur et de lui montrer enfin quelque chose, parce que les appels, donc ça, c'est moins, et on ne veut plus perdre son temps. Donc il y a moins d'appels, mais les gens sont plus qualifiés et il n'y a plus le visite touristique. Donc ceux qui se déplacent, comme il y a quand même eu quelqu'un, on se dit masque, pas masque, ils viennent vraiment pour acheter et on ne perd plus notre temps, et eux non plus, puisque visuellement, ils ont déjà vu quelque chose avant. Mais après, bon, les visites ont changé, évidemment. Il n'y a plus de covoiturage, on ouvre tous les placards, on fait attention aux points de contact, on essaye d'éviter de rassurer pour sa santé, pour la santé des autres. En tout cas, on fait très attention à la sécurité sanitaire.
Très important. Elle respecte toutes les normes sanitaires. Aucune fuite à déplorer pour l'instant. Et pourtant, on est dans l'ancien. Eva Rock est prête pour le face-à-face.
C'est pas de la crise sanitaire, ce que tu es en train de dire. Non,
c'est vrai. Ah, Eva Rock est prête pour le face-à-face qu'il oppose chaque jour à l'invité. Voici le quiz. Stéphane Plaza, pour le quiz du jour, nous sommes allés sur votre site d'annonce immobilière, stéphaneplazaimmobilier.com. Nous avons déniché quelques bonnes affaires et nous allons jouer à un plus ou moins. C'est parti. Vous allez comprendre, Eva.
Oui.
Eva Rock, un bol chinois de la dynastie des Song, qui ne va pas au lave-vaisselle en plus, ou un duplex de 4 pièces dans le 19e à Paris, 102 mètres carrés, loi Carrel 62, création d'un toit-terrasse envisageable. Qui a le plus de valeur ? Le bol ?
Le bol ou l'appartement ? L'appartement, vous avez dit 100 mètres carrés.
102 mètres carrés, attention, 62 mètres carrés en loi Carrel. Création d'un toit-terrasse possible.
Dans le 19e ?
Dans le 19e à Paris. Et le bol chinois, il est de la dynastie des Song, que vous connaissez bien,
parce
qu'elle est juste après celle des Ming.
Bien sûr.
Celle des Chung.
Bien sûr, bien sûr.
Probablement.
Je dirais que l'appartement est plus cher que le bol.
L'appartement est plus cher que le bol. Preuve que vraiment, elle n'y connaît rien en base chinois, puisque l'appartement est à 865 000 euros.
C'est pas très cher.
Il est bien placé en termes de prix, je dirais.
65 mètres carrés, le quand même. Attention, en loi Carrez, alors c'est peut-être beaucoup
c'est
peut-être de soupente. Parce que on est quand même à plus de 10 000 du mètre.
Pardon. C'est vrai. L'appart est à 865 000 euros, Eva, le bol. Est à 31,9 millions d'euros.
Mais non.
Il est en porcelaine, c'est un bol millénaire qui date de 960. Si vous aviez réfléchi, la dynastie des Song.
Mais vous m'avez dit qu'il ne passait pas au lave-vaisselle.
Justement.
Très bien. Stéphane Plaza, attention, une mèche de cheveux certifiée ayant appartenu à Elvis Presley ou un appartement d'une pièce à Nantes, 24 mètres carrés, salle d'eau et WC séparés. Qui a le plus de valeur ? La mèche d'Elvis ou le studio à Nantes ?
On a bien dit à Nantes, hein, où il fait toujours beau. Je vais prendre la mèche d'Elvis.
L'appartement à Nantes coûte 117 000 euros, honoraires inclus. La mèche de cheveux est à 1300 euros.
Ah, ça fait pas cher la mèche.
Par contre, Stéphane, vous n'avez pas mis les photos de l'appartement sur le site de Nantes, ce qui ne vous ressemble pas. Il faudrait peut-être mettre les photos.
Oui, ou alors vaut mieux peut-être pas les mettre. Hein. Enfin,
c'est peut-être une astuce d'agent immobilier, effectivement. Eva Rock, une lettre écrite à bord du Titanic où l'on peut lire « Si tout va bien, nous arriverons mercredi à New York
». Oui.
Ou un 3 pièces à Clermont-Ferrand, 60 mètres carrés, une cave, un garage, un dernier étage avec vue exceptionnelle sur la ville.
Non, alors je crois que clairement, ça fait partie des villes qui sont le moins chères. Donc je serais très étonnée que quand même.
Vous pensez qu'une lettre manuscrite vaut plus qu'un appartement ?
La lettre, elle vaut plus que l'appartement.
Elle a été vendue 141 000 euros, cette lettre.
Et
l'appartement
donc...
de Clermont, 120 000. C'est une bonne réponse.
Bravo.
Je crois que c'est Saint-Etienne et Clermont les moins chers, non, de France, les villes.
Oh, elles sont tellement belles, ces villes. Moi, je ne peux pas répondre.
Non, Clermont-Ferrand, c'est sympa. Franchement, ça ne m'étonne pas aussi bas. Stéphane Plaza, cette question-là, elle vaut 2 points.
Attention.
C'est le kit ou double avant l'heure. Stéphane Plaza, un 2 pièces à Marseille de 25 mètres carrés avec un évier en pierre de cassis.
Où ? Mais Marseille, où ? Parce que soyons précis.
Je pourrais vous rétorquer que vous devriez connaître par cœur toutes les annonces de toutes vos agences, Stéphane.
Il n'y a pas beaucoup de descriptions de l'appartement en même temps. Bon.
Essayons d'imaginer ce 2 pièces à Marseille dans un quartier non identifié. Ou un préservatif en boyau de mouton vieux de plus de 200 ans, de 19 cm de long, ce qui est pratique. Qui a le plus de valeur ?
Bah c'est vrai qu'on doit être bien dans les deux, mais je vais quand même choisir la maison de Marseille.
L'appartement de Marseille, c'est une bonne réponse de Stéphane Plaza, 78 000 euros. Le préservatif, très rare pourtant, a été vendu seulement 600 euros.
Oui, ça ne va pas être dans un super quartier de Marseille quand même, parce
que
78 000 euros.
C'est 25 mètres carrés. Ah oui,
25 mètres carrés.
Oh, c'est pas mal quand même.
N'essaye
pas de discréditer mes 2 points.
Non, c'est parce que je suis déformé par les prix parisiens.
Vous êtes déformé, ça sera le mot de la fin. Victoire de Stéphane Plaza.
L'équipe
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Et oui, ce sont les meilleurs moments comme tous les week-ends avec Mathieu Noël, Eva Rock et sa sélection qui arrive, hein, une petite comédie sur Netflix. Sans oublier Thomas Dutronc qui était l'invité de jeudi à l'occasion de la sortie de son 4e album Frenchie, sorti la veille, le lendemain. 14 chansons nées en France au succès international. L'album est même sorti aux États-Unis.
Comme moi, il a su rester modeste malgré l'insolence de son succès. On est ravis d'accueillir aujourd'hui dans l'équipe sauvage Thomas Dutronc. To get lucky, to get lucky. Up all night to the sun, up all night to get some. Up all night for good fun, up all night to get lucky. Très sympa. Dans l'album Frenchie qui sort demain et qui sera la bande-son de notre été, à n'en pas douter, vous dites quand j'écoute mon nouveau disque, la première chose que je me dis c'est « Ah bah voilà, maintenant je sais chanter, ça aura mis 12 ans, mais c'est bon ». Qu'est-ce que c'est que cette phrase de... Qu'est-ce que c'est que cette fausse modestie ?
Je ne suis pas toujours de mon avis, non, je ne sais pas pourquoi j'ai... Vous êtes sûr que c'est moi qui ai dit ça ?
C'est normalement, dans Jazz Mag, de mars 2020.
On dit n'importe quoi dans les interviews.
Surtout dans Jazz Mag, vous étiez un rédacteur en chef de Jazz Mag alors.
Bah oui, son rédacteur en chef est un grand malade.
Oui, ça c'est vrai.
Savez. Non, mais c'était agréable parce que j'ai pas fait beaucoup de guitare, en tout cas dans l'enregistrement, parce qu'on a enregistré rapidement. On avait 2-3 jours seulement de studio pour tout faire. Parce que les grands musiciens qui m'accompagnent, les immenses musiciens qui m'accompagnent, je redis leur nom, Rocky Gresset, Eric Lénini, Thomas Bramery, Denis Benaroche. Après, il y a eu des invités aussi, Michel Portal, Stéphane Belmondo, Marc Berthoumieux. Et on n'avait pas le temps, on avait beaucoup de titres à enregistrer. Et donc moi, pour faire de la guitare, j'ai quand même besoin de, je sais pas, de faire un saut, de faire 4-5 prises, de sélectionner. Enfin, ça prend une heure, quoi. Donc c'est trop long. Enfin, sauf si je suis vraiment en forme ou sur un malentendu, je peux arriver à faire. Mais là, Rocky Gresset, il est tellement bon. Là, on faisait les prises en direct. On faisait 2 prises d'un titre ou 3 et c'était, on avait tout dans la boîte, quoi. Donc, j'allais pas commencer à vouloir rajouter une guitare là où c'était
donc
pas nécessaire.
Contenté de chanter. Si
contenté de chanter. C'est ça qui était agréable, c'est d'être juste chanteur. Ça, c'était vachement bien.
Elle vous a épaté tout à l'heure sur l'épreuve du quiz, Thomas. Elle va enfoncer le clou en vous guidant d'une main experte dans les programmes télé. Alors, je vous assure, vous allez ressortir d'ici séduit, car même les plus beaux gosses de la rédaction d'Europe 1, comme Anissé Mbida, notre expert innovation, ne sont pas insensibles aux multiples talents d'Eva Rock.
Sinon, la grand-mère, elle est souple.
S'explaner, Anissé, pas plus tard qu'hier. Souple.
Vous savez ce qu'elle me dit, la grand-mère ?
Compétente. Ouais. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir
sur
nos
écrans ? C'est pas une nouveauté, mais que je vous recommande aujourd'hui, mais j'avais envie d'une comédie anglaise. Et sur Netflix, je suis tombée sur une série qui s'appelle Wanderlust. C'est un bijou de la BBC, vous connaissez Mathieu ?
Oui, je connais. Oui.
En 6 épisodes. Alors, on peut la traduire par un fort désir de s'aventurer, hein, ce terme-là. Ça raconte l'histoire d'un couple, Alan et Joy. Ils vivent dans un bled anglais qui est un peu paumé. Lui, il est prof, elle est psychanalyste, elle est spécialisée dans les problèmes de couple. Et bon, alors justement, leur couple à eux, ça va pas hyper bien. La routine, elle s'est installée depuis 20 ans. 20 ans de vie de mariage et puis 3 enfants. Mais ils s'entendent bien. Il y a juste au lit, c'est un peu la bérésina, plus de désir, plus de sexe. Et donc, ils ont une idée, et une idée qu'ils vont décider d'exposer à leurs enfants.
Votre père et moi, on aimerait bien discuter avec vous. On a décidé de fréquenter d'autres personnes.
Ensemble.
Oui.
Entendez.
Au même moment.
Des personnes différentes.
Mais ensemble. Moi et votre père.
Alors oui, allez voir ailleurs, mais avec le consentement de l'autre, c'est la bonne idée qu'ils ont trouvée. Alors le coup
ou
du couple
ou
la fausse bonne idée. Alors, le coup du couple libre, des relations sexuelles, mais qui sont pas des histoires d'amour, des expériences qui revigorent la vie au quotidien. Tout ça, on y croit, on n'y croit pas, mais on l'a déjà vu quand même des dizaines de fois à l'écran. Et dans nos vies accessoirement. Sauf que
vous
Nick Payne,
j'ai pas parlé.
Non, je parlais pour vous en fait. Sauf que Nick Payne.
Mais ce que je prends aujourd'hui, moi. Ma chérie, n'écoute pas ce qu'elle raconte.
Sauf que Nick Payne, qui est l'auteur de cette série adaptée de sa propre pièce de théâtre d'ailleurs, évoque avec brio cette problématique. C'est une pépite en termes d'écriture cette série. Un texte qui est sublimé par les acteurs et notamment Toni Collette qu'on avait déjà vu dans Little Miss Sunshine dans le rôle principal. Je vous recommande grandement l'épisode 5. Elle est face à sa propre psychanalyste. C'est une scène, moi j'avais rarement vu une scène d'une telle intensité avec des gros plans sur son visage pour une séance de psy qui est quasiment en direct. Wanderlust, c'est vraiment le mélange entre la comédie mais qui s'efface peu à peu pour laisser place à plus de drame, mais tout est réussi de la première à la dernière image. Et quand je dis de la dernière image, c'est vraiment la dernière image qui est la plus sublime de toute la série.
C'est pas un peu, comment dire, gênant, enfin ces trucs de...
De psychanalyse ?
Non, mais de sexe, de couple, enfin, je sais pas, c'est un peu, non ?
Il se moque de moi.
Non, je te jure.
Non, c'est un grand timide, en fait.
Il n'y a pas de scène de sexe.
Non, c'est vrai, c'est juste, on en parle, c'est pas du tout.
Ouais.
Non,
c'est plus du tout psy, choquant. C'est plus Woody Allen.
Moi, j'avais
que...
adoré Masters of Sex, je sais pas si vous l'avez vu celle-là.
C'est énorme, Masters of Sex. On est un peu dans le même esprit.
On est dans le
même esprit. C'est pas du tout choquant,
j'essaierai. En revanche, vous me ferez le plaisir de regarder tout ça en VO.
Ah oui, en VO, évidemment.
Je suis d'accord, j'ai le côté british.
Je suis d'accord.
Oui, bien sûr, non, mais bien sûr.
OST, eh oui.
Ah oui.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock. Et à présent, Nicolas Carreau, dont on va découvrir le sujet dans un instant. On va faire le plein de livres pour les vacances et on a le droit de ne pas les terminer. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que le livre est mauvais, nous assure-t-il. Auparavant, Mathieu Noël s'entretient avec son invité de lundi.
Elle a survécu à Michel Drucker qu'il avait pris sous son aile en début de carrière.
Respire, tu vas rien sentir. Je vais te faire ça sous péridurale.
D'une autre époque, la comédienne et humoriste Camille Chamou nous accompagne cet après-midi. Vous êtes membre du jury du Champs-Élysées Film Festival. Festival évidemment en ligne, on en a parlé. Vous pouvez toujours d'ailleurs voir les films et voter depuis chez vous. Camille, en janvier, au micro de notre confrère Philippe Vandel, vous déclarez être en train de préparer votre nouveau spectacle dont le titre est... ou était à ce moment-là, éloge du minuteur, l'idée étant de parler de notre rapport au temps. On en est où de ce spectacle ? Il est quasiment finalisé.
Il est quasiment terminé. Je voulais le tester sur Zoom, puisque les théâtres n'étaient pas réouverts. Et en fait, le directeur de la Porte Saint-Martin me propose de le tester en direct en juin. Mais c'est un siège sur trois. Vous connaissez les, oui. Voilà, le système. Oh, donc dur, ce sera devant 40 personnes, deux, trois soirs peut-être. Et en tout cas, après, je le crée au 15 septembre, au 1er octobre, selon les règles qui vont être mises en place, au Petit Saint-Martin, au théâtre du Petit Saint-Martin.
Vous ne l'avez pas changé le spectacle ? Parce que éloge minuteur, c'est le rapport au temps avec tout ce qu'on
vient bien tomber.
Ah ben, génial.
Vraiment, c'est horrible de dire ça, mais moi, quand il y a le confinement, j'étais là, hein ? C'est pas vrai. Et donc, alors voilà, maintenant, moi, je fais un spectacle sur le temps imparti, vraiment sur le temps limité, tu sais, et on m'offre le confinement, mais c'est tellement sympa, petit virus. Donc, non, ça m'a permis de travailler, de développer les thématiques déjà en place et autrement, quoi. Ouais.
Alors, Camille Chamou, on peut voter pour son film préféré dans le cadre du Champs-Élysées Film Festival, mais on peut aussi voter pour son chroniqueur préféré dans L'Équipée Sauvage. Voici justement notre quatrième et ultime concurrent du jour. Je le disais tout à l'heure, l'ivresse du succès ne l'a pas transformé. Il a su rester simple, accessible et tolérant avec les incomplets, enfin les techniciens.
Allô, allô.
Ah, Nicolas, bonjour, tu es là.
Ouais.
On t'attend.
Ouais.
J'espère que tu vas bien. En tout cas, on est super heureux de t'avoir.
D'accord, merci. J'aime bien le « on t'attend », mais ouais. Je crois arriver, quoi. J'attends depuis une demi-heure. On t'attend. Bon.
Alors, Nicolas, excusez les petites mains qui n'ont pas conscience du caractère précieux de votre temps. Et si vous voulez bien, parlez-nous de ces romans qu'il faut lire, mais pas forcément en entier cet été.
Oui, je vais vous déculpabiliser un peu. Alors, je ne parle pas des essais chapitrés avec différentes histoires ou des recueils de nouvelles. Ça, c'est évident. On peut lire par petits bouts, on peut picorer, n'est-ce pas ? Je parle d'un bon roman classique de 250, 300 pages. On peut ne pas le finir. Et comme Eva nous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens en France qui refusent de ne pas finir un livre.
Voilà.
On a tellement sacralisé. Voilà, c'est ça, exactement. Mais moi, je pense que ce n'est pas du tout grave. Au contraire, c'est peut-être ce qu'on a de mieux à faire. C'est d'abord l'un des droits du lecteur de Daniel Pennac. Déjà, ça compte. On a le droit de ne pas finir un livre. Et d'ailleurs, une étude de 2016 avait montré que, attention, ça fait peur, sur 10 livres, le lecteur moyen n'en finit qu'un seul.
Mais non.
Et oui, pas au-delà de la page 100 pour un livre sur deux. Pourquoi ? Vous allez me dire. Eh bien, il y a ce qu'on peut appeler l'excuse Internet, puisqu'on dit qu'on est dans un monde où tout va trop vite, où on zappe. Ouais. Certes, certaines études ont montré qu'on lisait moins avec une liseuse ou une tablette que sur un livre physique, comme si l'immatérialité de l'encre électronique empêchait notre esprit de se fixer. Effectivement. Pourquoi Mais en fait, souvent, on se fait une fausse idée du monde d'avant Internet. On ne lisait pas tellement plus ou mieux avant. Alors, peu
le
importe.
Le constat
n'en
est pas moins un peu dramatique.
Oui,
quand même,
mais peu importe,
Nicolas.
En fait. C'est pas grave de ne pas finir un livre. Un prof de littérature américain a même développé toute une théorie là-dessus. Il y a quelques années, il s'est rendu compte que parfois, il valait mieux arrêter la lecture d'un livre et ça ne l'empêchait pas d'avoir trouvé le livre très bon. Simplement, au bout d'un moment, il sentait que la suite allait gâcher le plaisir qu'il a pris de lire la première partie du livre. Et donc, il s'en est fait une règle. C'est un grand lecteur. Hein. C'est pour ça qu'il arrive à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il voit bien que ça va basculer, que c'est un peu plus mou. Ou que c'est pas la peine de continuer, et que s'il continue, il va s'ennuyer, etc. Et donc, il termine pas systématiquement les bouquins, mais parfois il va jusqu'à la page 58 ou 120 ou 210 et stop, et c'est très bien. Et il est heureux d'avoir lu ce qu'il a lu, et il peut dire que livre, il l'a adoré, même s'il a lu que jusqu'à la page 90.
Et puis, parfois, il y a aussi ce cas de figure qui arrive de temps en temps, c'est que dès le départ, on s'ennuie.
Oui, alors là, pas d'état d'âme, même si, parfois quand même. C'est bien de faire l'effort, d'aller au moins jusqu'à la page 50.
À 50,
pour
c'est
voir.
Un objectif que vous nous fixez.
Mais
quoi.
Parce que parfois, ce n'est pas que le bouquin est mauvais ou qu'il ne nous correspond pas. Simplement, on n'a pas du tout l'habitude de tel ou tel style. Mm. Ou alors, le style est un, est tellement inédit, tellement fou qu'on est un peu perturbé, donc ça, on a un peu de mal, mais au bout de quelques pages, finalement, on sans s'en rendre compte, eh bien, on s'y met, on y colle, et puis c'est bien de le finir. Donc allez au moins jusqu'à la page 50, c'est quand même pas grand-chose, et puis après vous le fermez en revanche sans état d'âme. Et puis voilà, on peut avoir des surprises, mais sinon effectivement, si vous en avez marre, ou assez, et eh bien terminé, merci, au revoir.
Camille, vous êtes de quelle école? Vous finissez tous les livres ou...
Pas du tout. Moi, très souvent, je décroche. Mais en revanche, je pense que c'est une bonne leçon pour tous les auteurs de France qui écoutent cette émission, bien sûr, et la chronique de Nicolas Carreau. C'est qu'il faut soigner les débuts.
Ça, c'est sûr.
Je pense qu'on peut retenir de tout ça qu'il faut mettre un petit paquet sur le début.
Les 50 premières pages, je vous en supplie, travaillez-les.
Même s'il y a un triste final, Mathieu, en fait, si le bouquin est... Vous êtes ennuyé, et à la fin, vous dites « Ah oui, d'accord, oui, la fin est pas mal, ça ne justifie pas. »
Ça ne justifie en rien, vous avez raison, Nicolas Carreau. Et n'oubliez pas de retirer votre petite bonnette personnelle du micro.
Je vous la donnerai si je gagne cette manche.
C'est trop d'honneur.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage avec Mathieu Noël et Eva Rock pour les meilleurs moments de l'émission. On va retrouver à présent Fred Goati. La compétition se poursuit. Et cette semaine, il a choisi d'évoquer la fête du vinyle. C'était hier, le Disquaire Day. Notre compétiteur nous parle de ses disques rares réédités. C'était donc jeudi sur Europe 1 en présence de Thomas Dutronc.
C'est le fringant Thomas Dutronc qui nous accompagne cet après-midi dans l'équipe est sauvage. Et ça,
c'est si bon.
Je vous remercie, Thomas. C'est vrai qu'on passe un bon moment. Votre album Frenchy sort demain et il sera, n'en pas douter, la bande-son de notre été. Pour eux, les vacances sont encore loin. Ce sont nos journalistes en compétition pour la couronne de chroniqueur du jour. Face à vous, Thomas, et non pas face à vous, puisque ça a été écrit avant. À côté de vous, Thomas, le directeur de Jazz Magazine, Fred Goati, un journaliste en prise avec son temps, parfois. Et parfois un peu moins, comme avec sa spéciale disco vendredi dernier.
Ah, je sais, nous sommes vendredi, j'ai 24 heures d'avance pour la fièvre du samedi soir.
Ou 24 ans de retard, je ne sais pas. Aujourd'hui, Fred, vous êtes pile dans l'actu, puisque vous nous parlez d'un événement qui a lieu samedi. Alors, on est bien.
Dans le futur. Ouais.
Redonnons ça. Tiens, écoutez, je viens de l'avoir au téléphone, c'est le guitariste lui-même des Insus.
Bonjour, c'est Louis Bertignac. Évidemment, j'ai toujours apprécié les disquaires indépendants et en cette occasion, je les soutiens de tout mon cœur et de toutes mes forces.
Voilà, merci pour ce gentil message, monsieur Bertignac. Car après-demain, samedi 20 juin, c'est le Disquaire Day, la fête des disquaires indépendants et par conséquent des amoureux du rock, du jazz, de la chanson, de l'électro, bref, de toutes les musiques. Le Disquaire Day, c'est le jour où le chasseur du vinyle masqué avec son gel hydroalcoolique dans la poche arrière de son jean se rue chez son disquaire favori, dépotrombiné pour fouiller dans les bacs et s'offrir un irrésistible objet du désir, un 33 tours collector en édition limitée. Étienne Daho lui-même, parrain de l'édition 2020 du Disquaire Day, sait bien l'importance de l'objet disque.
Il y a un retour à l'amour de la musique qui passe par l'objet, par le contact avec cet objet. Et forcément, moi qui ai poussé, qui ai grandi avec cet objet et qui l'aime, c'est une joie, quoi, vraiment, de partager ça avec des gens beaucoup plus jeunes.
Ce que nous voulons à travers cette journée, et là je cite cette fois le boss du Disquaire Day, c'est souligner l'importance des disquaires indépendants, la diversité musicale qu'ils incarnent, ainsi que le rôle culturel et social qu'ils occupent. Oui, les disquaires vendent des produits culturels de première nécessité. Oui, les nouvelles générations retrouvent le plaisir d'écouter de la musique en écoutant un bon vieux 33 tours. Et c'est tant mieux. Tiens, écoutez.
J'adore.
Le bruit du saphir qu'on pose dans le sillon du disque. C'est craquement, on dirait un feu de cheminée. Vraiment, c'est... attention Mathieu, vous allez rayer mon disque.
Bravo, il y a des effets, il y a des surprises.
Tiens, écoutez, tendez l'oreille. Ça c'est une musique du grand compositeur et arrangeur Michel Colombier, qui servit longtemps de générique de fin de journée. Écoutez, sur Antenne 2.
Non, mais je vous vois venir, Fred.
Quoi ?
Il n'y aurait pas un 33 tours collector de Michel Colombier dans la sélection 2020 du Disquaire Day par hasard ?
On ne peut rien vous cacher. Un 33 tours cultissime.
Vous êtes nul.
Capot pointu. Mélange de chansons.
Les acteurs, quoi.
De pop, de jazz et de musique orchestrale. Absolument unique. Alors pour mémoire, le regretté Michel Colombier a entre autres travaillé avec Supertramp, Prince et Herbie Hancock. Ah mais, bon. aussi, attention, avec le monsieur qui a offert sa première chaîne IFI à notre invité Thomas Dutronc, Serge Gainsbourg.
Tu es écrasé, petit cochon. Crac,
Quel Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh oui, turlututu, capot pointu, parole de Serge Gainsbourg. Eh oui, par ailleurs, Serge Gainsbourg, je le rappelle, et Michel Colombier, c'est, entre autres, Sous le soleil exactement, Elisa, Requiem pour un con, ou Harley Davidson avec Brigitte Bardot, entre autres. Bon, autre grand moment de pop musique farfelu extrait de Capot pointu, le tout dernier morceau de la phase B, Délice in extremis, que j'ai dédié évidemment à Olivier Pouls. Vous allez comprendre pourquoi.
Saint-Émilion, pour lui, prions. Saint-Émilion, pour lui, prions.
Avec spéciale dédicace pour notre invité Thomas Dutronc, Eddie Louis à l'orgue. Eh oui. Alors voilà, Capot pointu sera l'un des nombreux 33 tours de la sélection 2020 du disque Herday. Il y a des dizaines de références. Il y a par exemple Bob Dylan traduit en français. Enfin, c'est magnifique.
Il ne va pas y en avoir pour tout le monde, c'est ça
que oui.
Ah bah dépêchez-vous, il faut y aller. C'est pour ça que je dis, il faut y aller dès le matin. Mais c'est des éditions limitées. Alors chez tous les disquaires, il y a d'ailleurs en vente ce jour-là le guide, le pari des disquaires.
Bonne question. Il y en a en province ou pas, Fred?
Mais bien sûr, c'est dans toute la France le disque Herday.
Dans toutes les villes.
Samedi, je le répète, il faut aller chez les disquaires de France et de Navarre. Il y a un guide, le pari des disquaires. Moi, j'avais une question pour Thomas Dutronc. Votre disque, il sort bien en vinyle, on est d'accord?
Merci beaucoup en tout cas Fred Goetti, tout en gardant votre dignité. Un dernier mot pour inciter Thomas Dutronc à voter pour vous?
Aidez-moi.
J'avais dit en gardant votre dignité.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Apprendre et se détendre avec Mathieu Noël, Eva Rock et les journalistes d'Europe 1, c'est tous les jours sur Europe 1, oui, et même le week-end. À chaque jour, un invité d'honneur. Et mardi, c'était l'auteur, compositeur, interprète Louis Chédid pour son 23e album « Tout ce qu'on veut dans la vie ». Louis Chédid qui fêtera d'ailleurs ses 50 ans de carrière en 2022. Il est toujours surpris par la longévité de sa carrière.
C'est le moment de l'émission où, par générosité, altruisme ou fainéantise, je passe la main à ma complice Eva Rock pour l'interview de notre invité. Normalement, Louis Chédid, vous pouvez être serein, ça se passe plutôt bien. Même si avec Eva, vous n'êtes jamais à l'abri d'une maladresse. Marianne James peut en témoigner.
J'ai perdu 5 kilos.
Mais non.
Victoire ou pas?
Mais en faisant beaucoup d'efforts ou voilà, comme ça.
C'est toujours élégamment tourné.
C'était Marianne James. Mais oui, mais bon, écoutez,
Louis,
franchement.
Je vous laisse entre les mains plus ou moins.
Non, je vais être plus sérieuse, oui. Louis, je vais être un peu plus sérieuse parce qu'en 1985, vous avez écrit une chanson qui va marquer votre répertoire, Anne, ma sœur Anne.
Ouais, ouais.
Une chanson pour dénoncer l'antisémitisme et le rejet de l'autre plus générale.
Ouais.
Ma première question, c'est comment vous réagissez quand vous voyez le mouvement Black Lives Matter ou les manifestations en France de ces derniers jours?
Moi, je trouve ça très positif. Je pense qu'il faut... c'est un combat de tous les jours, de combattre le racisme. C'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, c'est un problème d'éducation aussi. Je veux dire, il y a tellement de gens qui... Malheureusement, d'enfants qui ne sont pas très bien éduqués à ce niveau-là, etc. Je veux dire, donc il faut les stigmatiser là-dessus. C'est important. La race est une race humaine. Elle n'est pas de couleur, elle n'est pas de religion, elle n'est pas de... Une chanson dans l'album qui parle de ça d'ailleurs, oui. Et qui est vraiment qui dit quelle que soit la couleur, la religion, on est tous pareils, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment dans la tête depuis toujours. Et je pense que toutes ces manifestations, alors parfois ça peut paraître un peu excessif. Moi, ce qui me plaît pas, par contre, c'est cette espèce d'alali contre les policiers, parce que les policiers, quand ils ont fait le Bataclan, tout le monde les embrassait sur la bouche presque. Et puis maintenant, je déteste les généralisations, quoi. C'est-à-dire, on peut pas dire tous les policiers sont des racistes. C'est faux, c'est totalement faux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver. Mais c'est vrai, dans les mouvements populaires, il y a toujours des choses très belles et puis des excès aussi. Voilà,
et vous pensez qu'une œuvre artistique, c'est important dans ces débats-là? Je pense à votre chanson, évidemment, de 85, mais je pense aussi à la chanson de Pierre Perret, par exemple, Lily, ou encore Dupont-la-Joie, d'Yves Boisset, qui dénonçait déjà le racisme de d'Yves Boisset. Quelle est la place de l'art dans ces moments-là? Vous pensez que c'est extrêmement important, que vous devez parler?
C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai fait Anne, ma sœur Anne, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était important, pas important. Pour moi, c'était important. C'est-à-dire que quand l'album a été terminé, il y avait Anne, ma sœur Anne, il y avait une autre chanson qui s'appelait God Save the Swing, qui est une chanson beaucoup plus populaire, beaucoup plus entraînante, qui était très légère. Et évidemment, les maisons de disques m'ont dit « Oh là là, Anne, ma sœur Anne, si tu sors ça, tu vas te planter, etc. » Mais moi, je ne me posais même pas la question. Je voulais sortir cette chanson en premier parce que je savais que si je ne la sortais pas en premier single... Premier extrait. Ouais. Si je la sortais pas en premier extrait, elle passerait inaperçue. Et en fait, donc j'ai vraiment insisté, j'ai même quitté une maison de disques pour ça, pour pouvoir la sortir, cette chanson. Et finalement, bon, bah, cette chanson est devenue une de mes chansons les plus connues, je crois. Mais voilà, je ne me suis pas posé la question, j'avais juste envie d'en parler. Comme un citoyen qui parle, j'ai cette chance de pouvoir dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et je le dis.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, votre cocktail info bonne humeur de l'après-midi. Et aujourd'hui dans le studio Coluche, c'est la rencontre de deux géants de la pop française. D'un côté, Louis Chédid, 45 ans de carrière, des belles chansons dont beaucoup de tubes. De l'autre, Axel de Tarlé, 3 ans de groupe de rock amateur à se prendre pour Bob Dylan. Car oui, Louis, le lead singer de Venin, a également tenté de chanter en anglais.
Donc j'avais fait une chanson en anglais.
Vrai.
Et donc j'avais quand même un vocabulaire de quatrième, donc j'avais pris mon petit dictionnaire. Et c'était l'histoire d'une ville qui prenait feu. Je cherche sur mon petit dictionnaire, pompier, et je recopie mal. Je me trompe, au lieu de recopier à pompier, je recopie à pommier. So the apple trees are coming here, but it's too late, the fire is free. On aurait dit du Dylan, mais c'était une erreur de traduction.
C'est vrai. Même si nos auditeurs ont certainement très envie d'en savoir plus sur votre carrière Axel, vous comprenez qu'on va plutôt parler de Louis Chédid cet après-midi. Je pense que ça intéresse plus nos auditeurs. On est fan avec Eva de ce nouvel album, Tout ce qu'on veut dans la vie, un album vraiment positif, idéal pour aborder l'été et chasser de notre tête cette période compliquée du confinement. Un confinement très actif pour vous, Louis Chédid, puisque non seulement vous avez chanté sur les réseaux sociaux, mais vous avez aussi appelé vos fans à reprendre vos chansons.
Oui, absolument.
Comment vous avez l'idée? Vous en a envoyé spontanément? Vous êtes dit on va...
Absolument, absolument. C'est-à-dire que je me suis dit je vais essayer ça et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais en recevoir 5, 6 covers. Ça va être l'ambiance générale. Europe One, je sais pas.
Des reprises.
Des reprises. Et en fait, j'en ai reçu plus de 100. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup de vues.
Est-ce que vous êtes toujours surpris par la façon dont le public se réapproprie et il s'approprie vos chansons?
Oui. Toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on est des passeurs d'émotions. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Il y a émotions qui peuvent donner envie de s'émouvoir, de pleurer, de danser, de chanter, d'être heureux. Et quand ça touche, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'en fait, une chanson, ça se construit vraiment chez soi, confiné. Alors vraiment confiné, on est devant son clavier ou sa guitare et on essaie de trouver des mots et tout ça. Et c'est très excitant, parfois très déprimant parce qu'on ne trouve rien. Des fois, c'est exaltant parce qu'on trouve la phrase qu'on attendait depuis des semaines. Et puis tout d'un coup, ça s'en va et ça se répand et les gens l'écoutent. Et quand on sent effectivement qu'il y a du répondant et que ce que vous avez sorti de vous touche les autres, ça c'est une récompense inouïe.
Alors comme vous êtes bien chauds tous les deux, je vous propose de passer comme ça, sans fioriture, au quiz.
Et c'est quoi votre quiz?
Eh bien, évidemment, comme Louis Chédid, j'aimerais citer les paroles de la chanson qui a donné le titre à votre album. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. On va évidemment parler d'amour. C'est un quiz sur l'amour. Louis Chédid... L'expression « tenir la chandelle » vient du XVIe siècle. La chandelle était un objet en bois dont la forme rappelait une chandelle, mais qui était un objet de plaisir solitaire. Ah. Quand on la tenait justement, on était malheureux en amour. Ce que je viens de vous dire, est-il vrai ou est-ce faux?
C'est à moi de répondre?
Oui, c'est à vous.
Je pense que c'est tout à fait faux.
Oui, c'est tout à fait faux. Effectivement, il n'est pas tombé dans le panneau. L'expression vient des valets qui restaient dans la chambre la nuit en tenant une chandelle pour donner de la lumière pendant que les seigneurs faisaient leur petite affaire. Mais ils se retournaient. Pudeur oblige, ils tenaient la chandelle. Et baroque. Dans le couple Anaconda, c'est toujours la femelle qui chasse. Cette dernière offre d'ailleurs la nourriture au mâle pour que ce dernier s'accouple avec elle. Vrai ou faux?
Oui, vrai, enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais vrai.
Mais alors, jamais vous ne prenez le temps de la réflexion.
Il n'y a pas de réflexion à avoir, je ne les connais pas, les anacondas, je vis pas avec eux. Donc, elle fait ce qu'elle veut, cette dame anaconda, avec ce monsieur anaconda.
Et
donc,
bien,
vrai.
En tout cas, c'est parfait puisque c'est une mauvaise réponse, c'est faux. Généralement, la femelle anaconda bouffe le mâle anaconda, comme elle sait qu'elle ne pourra pas chasser pendant 7 mois. Le temps de la grossesse est une façon pour elle d'avoir suffisamment de réserves. La nature est parfois bien faite. Eva Rock, Louis Chédy, vous répondez tous les deux. Qu'a avoué pendant le confinement le tennisman français Benoît Paire, qu'avant un match très important, il dormait avec sa raquette, qu'il avait déjà fait l'amour une heure avant un match, ou que quand il crie en tapant dans la balle, ça fait exactement le même bruit que quand il fait l'amour.
Oh là là.
Moi, je dirais la 2. Il fait l'amour une heure avant le match.
Une heure avant le match, c'est en tout cas ce que vous conseillez aux sportifs
qui
nous
écoutent. Non, il ne faut surtout pas le faire. Mais
Je pense qu'il dort avec sa raquette, moi.
Il dort avec sa raquette. C'était plus mignon, mais c'était la mauvaise réponse. Bonne réponse, Eva. Effectivement, il a déjà fait l'amour une heure avant le match. Une confidence qu'il a faite aux joueurs de tennis suisse.
Et ce qu'il ne faut pas faire, en vrai. Non, mais vraiment, les sportifs, on leur demande c'est pas. Mais bien sûr, les footballeurs n'ont pas le droit de voir leur compagne un jour avant le match.
Ah bon ?
Mais pour quelle raison physiologique ?
En termes d'énergie ? Ben, ça vous épuise les garçons, hein, et je suis désolée de vous le dire, mais voilà.
Ça dépend de la position. Ouais. N'épiloguons pas sur ce sujet qui pourrait nous emmener assez loin. Louis Chédid, un ou une érotomane, c'est une personne qui se sent capable de faire l'amour avec n'importe qui, une personne qui pense que vous l'aimez, ou une personne qui ne peut pas faire l'amour sans écouter du Eros Ramazzotti.
N'importe quoi.
C'est une maladie.
Voilà, c'est trop facile.
Oui, c'est facile.
Trop facile.
Ouais.
La une.
Vous êtes sûr ?
Oui.
Une personne qui se sent capable de faire l'amour avec n'importe qui ?
Non, la une.
Une personne qui pense que vous l'aimez ?
Non, la une.
Je répète les choix. Ouais. Un ou une érotomane, c'est une personne qui se sent capable de faire l'amour avec n'importe qui, c'est ça la une. Une personne qui pense, qui est persuadée que vous l'aimez. Ou trois, une personne qui ne peut pas faire l'amour sans écouter du Eros Ramazzotti.
Moi, je dirais la une.
C'est faux, Louis ! Une personne érotomane, c'est une personne qui est persuadée que vous l'aimez. Plus précisément, puisque je vais apporter une meilleure définition que celle qui m'a été donnée là.
C'est une personne qui est persuadée,
qui fixe son désir sur quelqu'un, et qui est persuadée, je suis persuadée, par exemple, qu'Eva Rock est folle de moi, en fait. Et pas du tout, c'est une
vue d'esprit. Mais je pense que vous en avez beaucoup dans vos fans.
Ah, peut-être que vous avez reçu pas mal de messages en ce sens.
Vous voulez dire que je suis un... Ah oui, c'est pas
non.
Moi.
Non, c'est pas
il suffit que vous regardiez quelqu'un dans le public, et la personne capte votre regard, et elle se dit, il m'a regardé, il a envie de moi.
Elle se dit, cette chanson, il l'a chantée pour moi, par exemple.
Ah d'accord.
Voilà.
Écoutez, je vais regarder ça plus précisément.
Vous allez appeler vos fans.
Quand je vais remonter sur scène bientôt.
Eva Rock,
oui.
C'est la dernière question. Attention, essayez de vous rattraper. Dans la série Les Feux de l'amour, comme il y a eu plus de 10 000 épisodes, les scénaristes ont commis quelques libertés par rapport à un personnage culte, Victor Newman.
Oui.
Alors écoutez bien, il a eu 4 enfants alors qu'il avait subi 2 vasectomies. Il a trompé sa femme avec l'actrice qui jouait sa mère 4 saisons auparavant. Ou alors il n'a pas eu de maîtresse en 30 ans de présence dans la série.
Non, je crois que c'est l'histoire de la vasectomie.
L'histoire de la vasectomie,
oui.
C'est-à-dire ?
Eh bien, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il en a eu 4 finalement.
C'est une réponse qui vaut moins 2 points, et c'est une bonne réponse.
Ouais.
Il a eu 4 enfants en subissant 2 vasectomies, une qui n'a pas marché et l'autre. Ah, les scénaristes sont quand même brillants. Son ex-femme avait gardé un échantillon de sperme. Ça, c'est bien joué, hein. c'est très malin. Et c'est donc Louis Chédid qui remporte quand même le quiz, puisque c'est toujours l'invité qui le remporte.
Voilà, non, mais bon, d'accord.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Notre compil du week-end se poursuit avec Mathieu Noël, Eva Rock, un invité d'honneur, la réalisatrice de Comme tu es belle, LOL, Dalida, Lisa Azuelos, donc, sans oublier les journalistes d'Europe 1. Et le concurrent suivant est spécialisé dans les nouvelles technologies et l'innovation. C'est Anissé Mbida qui a choisi de nous parler du premier jeu vidéo prescrit aux enfants souffrant de troubles de l'attention. C'est la première fois qu'un jeu est autorisé officiellement comme un médicament.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipée sauvage avec cet après-midi Lisa Azuelos qui publie La vie en ose ou comment dépasser cette étape douloureuse de la vie quand nos enfants devenus grands quittent le nid familial. Dans ces moments-là, n'oublions jamais que pour certains parents, le drame c'est justement qu'ils ne le quittent pas.
Dis rien, dis Jane, un caillou dans une chaussure, un poil de cul coincé entre les dents, c'est basse, poil de cul.
Si fin soit-il, le cheveu aussi a une ombre.
Et tu fais chier, tes proverbes chinois.
Alors, Lisa Azuelos, Alice, votre héroïne, tient un journal dans lequel elle écrit et se confie, sans filtre, sans se mentir. Elle exprime ses émotions. Elle écrit « J'ose faire éclore celle qui s'est tue pendant des années ». Est-ce que vous, dans la vie, vous utilisez le procédé d'un journal intime ? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ?
J'ai beaucoup utilisé le journal intime avant de faire des livres ou des films, en fait.
depuis que je mets toute ma vie dans, que je vous livre ceci est mon corps, buvez et mangez-en tous, voilà. Depuis que je fais ça, j'avoue que j'écris beaucoup moins, j'essaye. Mais vous savez, c'est marrant, aux États-Unis, ils ont carrément un verbe, c'est le journaling.
Et le oui. Journaling.
On journals.
Enfin, d'accord. Ah oui, ça va. Ah
ouais, donc c'est pour vous dire à quel point c'est devenu. Mais c'est quelque chose de génial, quoi, parce qu'on n'a pas toujours un ami non toxique à qui parler.
Exactement.
Vous les avez gardés, vos journaux intimes?
Ah, je croyais mes amis toxiques. Non, mes amis toxiques, je ne les ai pas gardés.
Vous parlez de Fourchat et de Réponse qui sont abordés dans le livre.
Bien.
Expliquez-nous, qui sont Fourchat et Réponse?
Fourchat, c'est un petit peu le mauvais. Vous savez, comme dans Tintin, quand il y avait le mauvais ange et le bon ange, etc. Et on a tous dans nos têtes la petite voix qui est tout le temps en train, on dirait qu'on a tout le temps Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, pour ceux qui ont à peu près mon âge, hein, qui commandent notre vie. Et c'est jamais très sympa, en fait. Non, mais c'est vrai. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette, tu marches bien, t'as une belle allure dans la rue, j'adore comment t'es habillée, oh là là, ce que tu viens de dire est super intelligent. » Non, on a toujours la voix contraire qui dit « Mais tu t'es pas vue, mais pourquoi t'as dit ça, mais oh là là, j'aurais dû, je vais être en retard. » Enfin, il y a toujours un espèce de patron, harcèlement moral, sexuel et je sais pas quoi dans la tête qui nous mène en enfer alors que ça pourrait être possible de pas vivre ça.
C'est vrai.
Donc ces deux petits personnages-là illustrent cette voix tyrannique dont il faut vraiment apprendre à se débarrasser. Hein. C'est ça le bonheur, c'est rien d'autre.
Alors, chez lui, c'est clairement Réponse qui domine. Car je peux vous dire que lorsqu'on est en séminaire, elles sont nombreuses à gratter à la porte de sa chambre d'hôtel le soir venu pour goûter le fruit défendu dans ses bras de mannequin slip Armani. Mais il n'oublie jamais la bague qu'il a au doigt. C'est pourquoi il leur répond toujours très poliment.
J'aimerais bien, mais je préfère dormir, malheureusement.
Non ! Alice, vous êtes la sagesse incarnée. Enfin, je le croyais. Car aujourd'hui, vous nous parlez d'un jeu vidéo qui serait bénéfique pour la santé, qui serait même un médicament. Je pense que vous allez un peu loin.
Non, c'est très sérieux. C'est le gendarme du médicament américain, la FDA, qui l'a annoncé lundi. Un nouveau médicament vient d'être autorisé. Et surprise, ce nouveau médicament, c'est un jeu vidéo. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Endeavor RX. RX, c'est prescription aux États-Unis. Bon, on voit ce petit, le grand R avec un petit RX. Et donc, c'est la première fois qu'un jeu vidéo est officiellement reconnu comme étant un médicament. Et un médicament, pas pour soigner n'importe quoi, hein, pour soigner l'hyperactivité et le déficit d'attention, c'est chez les 8-12 ans, donc chez les enfants. Et ça peut surprendre parce que justement, en général, les jeux vidéo, on se dit, ils n'arrivent pas à se concentrer, et ils rendent les enfants hyperactifs. Donc là, c'est sa preuve que non.
Alors comment on a découvert qu'il était bénéfique ce jeu ?
Eh bien, on a, comme tous les médicaments, hein, c'est qu'on l'a testé, c'est-à-dire qu'on a pris 600 enfants.
Ils devaient être trop contents d'aller faire des tests pour une fois.
Non, mais c'est des enfants qui sont malades, hein, quand même, faut quand même le rappeler. Qui avaient des symptômes, les différents symptômes de l'hyperactivité. On leur a fait tester ce jeu vidéo et on a constaté qu'après, ces enfants-là avaient certains symptômes qui avaient disparu après ce traitement. Donc, ça fonctionne exactement comme on ferait avec un médicament chimique, par exemple.
Et en quoi il consiste ce jeu vidéo ?
Ben c'est un jeu d'aventure où on a des missions. On va dans des mondes un peu
fantastiques. Ah, c'est pas un truc chiant pour rassurer les jeunes qui nous écoutent. C'est un jeu vidéo.
C'est un vrai jeu vidéo. Il y a des murs de lave, des forêts fantastiques. On a des missions à accomplir et chacune des missions a été calibrée en fait pour cibler un trait de l'hyperactivité ou de déficit d'attention. Donc, il va par exemple quand on a la capacité à reconnaître certains motifs, par exemple, il y a des missions qui visent à essayer de reconnaître certains motifs. Et on obtient des points au fur et à mesure. Donc en fait, ils ont gamifié, si on veut, ils ont transformé en jeu.
Ça va loin dans le. Bah oui, parce qu'on est en train
de. On est en train de parler des mots, comme on dit aux États-Unis. L'idée, c'est de rendre ludique certains traitements. Et ils se sont rendus compte qu'avec leur algorithme, leur système d'algorithme, ça va activer ou doper une zone du cerveau qui, justement, a un problème chez les enfants. Donc c'est extrêmement sérieux. Et ce que je trouve très intéressant dans cette affaire, c'est que vous avez certainement entendu parler vous savez, le jeu. Le traitement cérébral, l'entraînement cérébral du docteur Kawashima, etc. Des jeux sur la Wii ou qui étaient pour les personnes âgées. Bon, tout ça, on rigolait un petit peu. Mais quand ça devient des véritables prescriptions et que ça a été prouvé scientifiquement, eh bien, ça a peut-être donné un autre regard un peu différent du jeu sur le jeu vidéo.
Ben, pourquoi pas ? Comme ça, nos enfants vont aimer aller chez le médecin maintenant. Ils espéreront avoir la bonne prescription du jeu vidéo.
Lisa, vous prendrez 3 Fortnite et 2 Call of Duty.
Est-ce que vos enfants ont été addicts aux jeux vidéo ? Est-ce que ça vous a inquiété ou ils sont passés à travers ?
Seulement mon fils, en fait. C'est quand même 1/3.
Oui, c'est quand même 1/3.
Alors ça m'a inquiété, mais en fait, ce qui m'aurait inquiété, c'est s'il n'avait pas eu de vie sociale à part. Mais moi, mon prochain film sera un film thérapeutique comme ça.
J'y crois
à fond.
C'est-à-dire ?
Mais c'est tout à fait possible, j'imagine.
Mais parce que quand on commence un peu à s'intéresser aux neurosciences, on voit bien qu'aujourd'hui, on sait des choses sur le cerveau qu'on ne savait pas il y a encore 10 ans. Et en fait, l'image, comme tout est vibration, l'image, la lumière, le son, ça impacte le cerveau et ça transforme réellement la vie.
Et donc, vous pourriez concevoir un
film ? Je vais concevoir.
Vous allez concevoir, c'est le projet.
C'est le projet.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Thomas Dutronc. Dans son dernier album, il revisite avec élégance 14 chansons de notre patrimoine qui ont connu un succès à l'international. Il sera en concert à La Cigale à Paris les 2 et 3 octobre prochains.
Europe 1,
16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Place à la seconde partie de l'équipe est sauvage, les meilleurs moments avec Mathieu Noël, Eva Roque et les journalistes d'Europe 1, toujours au service de notre culture générale. Chaque après-midi, oui, ils s'affrontent pour décrocher le titre suprême du meilleur chroniqueur sous l'œil arbitre d'un invité d'honneur, en l'occurrence ce week-end, Lisa Suelos, Louis Chédid, Stéphane Plaza, Camille Chamou ou encore Thomas Dutronc. Du côté des chroniques, à l'occasion de la fête des pères, on parlera de tous les types de papas chez les animaux. On parlera aussi de cette grande vente de vin aux enchères pour dire merci au personnel soignant, l'hydrogène, la nouvelle énergie du moment et encore les roses de nos jardins. Bon après-midi avec nous.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour batifoler gaiement sur les herbes folles du savoir. Départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 et apprendre à découvrir des facettes parfois méconnues de vos stars préférées. Aujourd'hui, une seule question se pose pour Thomas Dutronc que nous avions eu au téléphone durant le confinement. Est-ce que ça va mieux ? Car pour rappel...
Une pensée pour ceux qui, pour le type ou la femme qui est confinée avec Rémi Bricard. Ça doit pas être simple en ce moment, toute la journée.
Ce qui est bien, c'est que la femme qui sera confinée avec Rémi, en tout cas lui, il fait vachement le ménage et tout ça, c'est vachement propre parce que Rémi Bricard. Pardon, excusez-moi, ouais, c'est un peu la fatigue.
Vous aimez son humour.
Rémi Bricard, putain, j'avais...
Oui, c'était le confinement. C'est hein, les cerveaux tournaient un petit peu au ralenti. Vous aimez son humour, vous allez adorer son disque. Thomas Dutronc revient pour enchanter votre été.
Ma carrière s'arrête.
Presque. S'achève.
Comme nos voix.
Avec Stacy
Kent. Oh la vache, alors il n'y a que des stars sur cet album. Il y a aussi Jeff Goldblum.
Ouais.
Comment vous avez rencontré l'acteur de Jurassic Park ? Comment vous avez réussi à faire un duo avec lui sur The Good Life, La Belle Vie ?
Écoute, on s'est retrouvés chez Drucker sur le canapé.
Ah.
On a fait l'amour brièvement.
C'est passé quelque chose. Oui. Quoi.
Non, mais on a sympathisé. Puis en fait, il est dans le même label. Il est chez Blue Note aussi parce qu'il joue du piano. Maintenant, il fait des concerts et tout ça. Donc on lui a demandé. Il a répondu d'accord. En fait, toutes les stars qui ont accepté ont un espèce de lien avec la France, parce que j'ai appris après que sa femme est française, Jeff Goldblum. Du coup, voilà.
Un
on s'est fait un Skype et on a discuté. J'ai pu vérifier que sa femme était bien française.
Mais Diana Krall, elle a un lien aussi avec la France.
Alors non, Diana Krall, c'est Iggy Pop qui lui a dit tu viens.
Je viens.
Mais elle a dit d'accord.
Alors il y a aussi Billy Gibbons du groupe ZZ Top qui joue sur cet album. Comment vous l'avez rencontré ? C'est un guitariste de rock monumental.
Ouais, de blues,
lui aussi,
de...
encore sur le canapé de Michel Drucker.
Non, écoute. Moi, je suis fan, on lui a demandé et il a accepté. Il a un lien aussi, c'est sa femme, elle, qui aimait la France et qui lui a dit « Ah, tu dois accepter ». Elle était danseuse, quand elle avait 20 ans, elle a passé 2-3 ans en France. Elle a dit « Ah, mais c'est super, il faut que tu le fasses ». Ça, j'étais vachement impressionné de le rencontrer. On a enregistré dans la tour Capitole, légendaire à Los Angeles, où tout le monde a enregistré, je ne sais pas, Sinatra, Nat King Cole et tout ça, Johnny Cash. Et il est venu, il a joué, il a fait une prise de guitare pour son petit solo, puis il a chanté. J'ai osé lui demander, tu veux pas quand même en...
Ah, vous avez osé lui demander de...
Il chantait phrase par phrase.
Ouais.
C'était un peu frustrant, tu vois. Alors, à la fin, on avait tout, si tu veux, en boîte, on écoutait. Bon, c'est pas mal. Je lui dis, tu voulais pas quand même en faire une maintenant qu'on l'a, un petit bonus. Mais personne n'osait rien lui dire, tu vois. Mais pourtant, il est hyper gentil, mais il est assez impressionnant avec son look incroyable. Et il l'a fait, il a refait une prise qui était mieux d'ailleurs. Et voilà. Et après, je le raconte tout le temps, mais c'était génial quand même. Il dit « Vous êtes où à l'hôtel ?» On était au Sunset Marquis, c'est un hôtel un peu de musique et un studio d'enregistrement en dessous, donc en Californie, Los Angeles. Il dit « Ah, j'habite à côté, autant je viens 19h ce soir. Alors, il parlait en anglais. Hein. Là, je vous fais la traduction. Ouais. Il disait pas autant, je suis capable de descendre à 19h. Oh, Zizi Top, tu es corse, en fait. Non, mais... Alors, donc, il arrive à 19h. Il arrive à 19h. On pensait vraiment pas qu'il allait se pointer. Il s'est pointé. On a bu 3 ou 4 bières. On a discuté. C'était hyper sympa. Et d'un coup, il y a un type qui arrive qui lui dit bonjour et nous dit bonjour. C'était Pete Townshend, le guitariste des Who.
Ah, oh, oui, Pete Townshend. Génial, il paraît que je lui ressemble.
Ah bon?
Écoute.
On me l'a dit.
Je sais pas.
Bah non, mais c'est pas un compliment, c'est pas Brad Pitt le mec. Hein. Ouais, c'est juste qu'on m'a déjà dit que je lui ressemblais. Oui, c'est Guy Carlier qui m'avait dit ça à une époque. Bah oui, bah peut-être à l'époque où j'avais plus de cheveux et surtout moins de cheveux blancs. Bon, Thomas Dutrange, j'étais ravi de vous accueillir. Jusqu'à maintenant, vous restez quand même sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Alors, mon cher Thomas, la dernière fois que je vous avais brossé un portrait assez flatteur d'Eva Rock, portrait. On l'avait senti, vous avez intrigué.
Il paraît qu'elle est de Nice. Il paraît qu'on t'appelle la Soca. Mais j'avoue, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais la Soca d'Aide.
Tu sais ce que c'est, la Soca?
Ben non.
La Soca, c'est une crêpe niçoise très brûlante. Enfin.
Ah ouais. Ah,
ouais. Et très grasse aussi. Hein.
Oh non.
Voilà. Je me dis, moi, c'est moi qui l'ai dit. Non, non, okay, non, c'est pas grave.
Pas
hein.
du tout, pas du tout. Ah vous là. Êtes fine comme un roseau.
Oui, bien sûr.
Et tonique comme du
oui,
tonic.
Voilà.
Je...
comme le gin tonic que vous avez bu hier soir, quoi, apparemment. Ça va pas bien.
Je sens que vous brûlez d'envie, Thomas et Varrock, vous interviewez. En face à face, et bien c'est ce
mais
qui va se
non,
passer.
Non, mais n'importe quoi, c'est juste une ou deux petites questions en plus. Thomas, la première fois que je vous ai rencontré, c'était sur une scène mythique, c'était face à la mer et face à l'Estérel, c'était à Jazz à Gion. C'était la première fois que vous jouiez sur cette scène et je me suis demandé ce que vous avez pensé quand vous avez débuté votre concert à toutes les stars du jazz qui étaient passées ici, de Ella Fitzgerald à Louis Armstrong.
C'était en 2002 alors
ouais, exactement.
Avec Birelli,
ouais.
Quand je faisais la rythmique pour Birelli.
Ouais, ouais.
La dernière fois qu'on y a joué, on n'a pas trop pensé à ça. Il y a eu du retard. Il faisait très très chaud. C'était la canicule.
C'était pourri.
On voyait pas du tout la mer. C'était tout noir parce qu'il faisait nuit, tu vois. Mais par contre, l'humidité de la mer, par contre, désaccordait tous les instruments. Il faisait une moiteur, une chaleur. Tu sais, c'était la canicule en fait.
Une belle pub pour Jean Lépère, le festival. Qui n'aura pas
donc la canicule, c'est pas facile pour,
non, mais
pour
alors,
jouer.
Plus sérieusement, on sait que vous êtes fan de jazz. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier disque de jazz? Si on met Django Reinhardt à part.
Mais moi, en fait, j'ai écouté du jazz la première fois assez tard, genre ouais. À 18 ans et demi, un truc comme ça. Voilà, j'écoutais pas trop de jazz. Mais le premier truc que j'ai écouté, ça doit être Thelonious Monk et Django après.
Et votre premier concert de jazz, vous vous en souvenez?
Moi, au début, je faisais de la guitare, on ne peut pas dire que c'était du jazz. Je ne sais pas ce que je faisais. Je plains les gens qui m'ont entendu les premières fois, mais je me rappelle, oui, les premières fois. Une des premières fois que j'ai joué, je crois que c'était dans un petit cabaret à Bastia, le Fanal, je crois que ça s'appelait. C'était la déco des années 60 encore. C'est pourtant, là, on était dans les années 90. Enfin, et la boîte a fermé, il y a eu des meurtres et tout. Et on avait joué avec, c'est un copain, un super guitariste, Antoine Tatiche, qui nous avait réunis comme ça dans un groupe pour ce geek. C'était trop marrant parce qu'on s'est retrouvés, on n'avait jamais répété, on ne savait pas ce qu'on allait jouer et on était assez amateurs, quoi. Donc j'imagine le concours de pain, c'était mon premier concert.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Depuis des millénaires, la rose fascine. Elle est l'une des fleurs les plus cultivées au monde. Elle se place sans conteste sur la première marche du podium des fleurs les plus vendues. Coup de projecteur dans l'équipée sauvage avec Mathieu Noël, Eva Rock et Alain Sirou. C'était le 12 juin dernier sur Europe 1 en présence de l'animateur et agent immobilier Stéphane Plaza dont la maman était d'ailleurs fleuriste.
Vous écoutez l'équipée sauvage spéciale immobilier avec tout simplement le roi de l'immobilier, le Don Corleone du real estate, Stéphane Plaza, de retour lundi sur M6 dans Chasseurs d'appart. Vous êtes désormais à la tête d'un réseau d'agences immobilières avec Stéphane Plaza Immobilier. La première agence, c'était en 2015, dans le 11e à Paris,
oui, c'est
ça?
Oui, c'est l'agence pilote, c'est où je travaille le plus en tout cas.
Toujours physiquement?
Oui, physiquement j'y suis, oui.
Et vous avez combien d'agences aujourd'hui?
C'est pas les miennes, hein, ce sont des franchisés.
Oui,
je vous rappelle quand même, n'allez pas me mettre le fisc sur le dos. Il y en a 513.
Oh, 513 agences.
Oui, c'était pas la peine de le répéter. Déjà,
pardon,
le chiffre était important, mais oh, 513. Là, je pense qu'il se passe quelque chose entre nous.
Oui,
maintenant.
Voilà, ah, oui, tout à fait.
C'est une bonne nouvelle. Alors, Stéphane, excusez-moi, je vois Eva Rock qui s'impatiente. Je crois qu'elle a hâte de voir Alain Sirou en découdre avec Mathieu Charrier. C'est ça, Eva?
Je veux le voir dans l'arène, tu entends? Oui. Je veux voir son corps déchiqueté par les fauves,
oui,
ses pilotes en lambeaux sanglants.
Oui,
oh, la reine.
Oui,
je veux voir le trident labourer son torse.
Oui.
Je veux voir le glaive découper la peau de son ventre à lanière. Je veux voir les filets emprisonner ses chairs tumifiées tandis qu'éclateront ses joues son nez.
Oui, alors Alain Sirou, ne faisons plus attendre, madame. Je vous propose de vous lancer.
Tout, hein, vous inquiétez pas.
Vous nous parlez aujourd'hui, Alain, du pouvoir des fleurs, un pouvoir qu'on peut analyser de manière scientifique.
Oui, parce que en fait, c'est Darwin appelait ça l'abominable mystère. Quand il était dans la nature, qui regardait les maisons, qui était dans les jardins, la question qui se posait, c'est finalement d'où viennent les fleurs, d'où est-ce qu'elles sortent
du sol.
Évidemment du sol, mais finalement, quand on regarde l'histoire du vivant, on se rend compte que elles sont arrivées assez tardivement. Les premiers végétaux sont arrivés sur Terre il y a 400 millions d'années, et les plantes à fleurs sont arrivées il y a 140-150 millions d'années. Comment ça se fait? Comment c'est possible? C'est vraiment, elles n'ont pas toujours existé, donc c'était vraiment le premier mystère.
Par exemple, à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas de fleurs.
À l'époque, si, parce que 65 millions d'années, il y avait.
Ah oui,
il y avait,
65 millions d'années, voilà. C'est juste. Oui.
Je parle de 140 millions d'années.
Effectivement.
Et la deuxième chose, c'est que c'est un énorme succès de l'évolution, c'est-à-dire qu'elles ont remplacé les pommes de pin, qui étaient leurs ancêtres en quelque sorte.
Il y a toujours des pommes de pin.
Il y en a toujours, mais 90% des plantes sont des plantes à fleurs. Et aujourd'hui, tous nos aliments, les fruits, les légumes, ce qu'on mange, les graines, etc., sont liés à des fleurs. Parce que les insectes pollinisent, transportent en quelque sorte le sperme des plantes.
On peut le dire. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. On parle franchement, Stéphane.
C'est la première fois qu'on me parle de fleurs, de sperme, de dinosaures, de pommes de pin. Je voulais dire quand même que ma mère était fleuriste, mais jamais parlé. Ça, elle me disait toujours, t'es une fleur parmi les fleurs, mais elle m'a jamais parlé comme ça de fleurs. Mais je suis content de l'apprendre.
Voilà. Mais il est l'âge, il est temps.
Oui, voilà. Il est temps, il est devenu grand maintenant.
La deuxième chose, je fais le lancement de Mathieu.
Oui. Pardon, les fleurs sont de redoutables séductrices.
C'est même leur mission, parce que fleurs riment avec couleur, odeur, forme. Elles sont chargées de séduire. Alors séduire les insectes, les pollinisateurs, qui arrivent comme ça. Et puis, on voit très très bien qu'elles se sont adaptées en couleurs, en forme. Certaines ont même des couleurs qui sont visibles que dans certaines longueurs d'onde, accessibles à des insectes. Et finalement, chez moi, j'ai un céanote, par exemple. C'est-à-dire, c'est une plante qui a des fleurs toutes bleues. Eh bien, moi, je considère que les céanotes, et quand on regarde les abeilles autour, c'est l'équivalent pour les abeilles en fleurs de ce que sont des bonbons Haribo pour les enfants. Ça les attire, mais comme des mouches. Ouais, et puis, bien évidemment, eh bien, la question, c'est l'odeur. Parce que quand vous mettez le nez dans la rose, et il n'y a pas que la rose.
Là où il y a le sperme, c'est ça. Oui. Pour restituer un petit peu. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Avez vraiment un festival d'odeurs, parce que là encore une fois, ça nous ramène à notre histoire à nous, c'est que l'univers des animaux est d'abord olfactif. Devant tout, les animaux sentent, bien avant la vue, l'écoute, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils mangent, c'est comme ça qu'ils se méfient des prédateurs, qu'ils suivent des pistes, qu'ils se reproduisent. Le sexe a une odeur, l'amour a une odeur, bien évidemment. Et pour l'homme, l'odorat est lié à notre part animale, puisque, alors ça c'est aussi extraordinaire, c'est qu'on découvre scientifiquement, quand on regarde ça, que 5% de nos gènes sont consacrés au décodage des odeurs. Alors qu'il n'y en a que 4 pour la vision. Vous vous rendez compte que les odeurs, c'est quoi? C'est des molécules odorantes qui se promènent, qui se dissolvent, qui passent dans le nez. Il y a des récepteurs. Et là, vous avez 400 récepteurs différents. On dit qu'un homme peut sentir 1000 milliards d'odeurs. C'est-à-dire qu'on sent pratiquement rien, on est très formaté en règle générale. Donc, mettre le nez dans les fleurs, c'est évidemment aussi jouer à ça, parce que c'est des souvenirs, on boit, on sent, on mange des souvenirs, l'odeur c'est aussi le goût, et on se rend compte que c'est associé à des histoires, et on se rend compte que finalement la fleur c'est tout un univers, ce grand mystère dans lequel je vous invite à pénétrer. Et quand on achète une maison... un appartement, on a toujours un balcon, ou en tout cas,
Les moyens,
visiblement, oui.
Souvent, et ceux qui habitent là, ce sont ces plantes, ces fleurs, qui vous attendent et qui sont contents de dire, voilà Stéphane Plaza.
Tout cas, vous nous avez parlé de roses dans votre jardin tout à l'heure, mais on sait qu'il y a une plante qui est dans votre jardin à coup sûr, c'est effectivement le cannabis qui doit vous faire une quantité en Bretagne, visiblement, ça pousse bien,
l'ensoleillement
est idéal. Effectivement, merci Alain Sirou.
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
L'hydrogène est considéré comme un moyen d'accompagner la transition énergétique en servant notamment de carburant dans les véhicules électriques. C'était l'occasion de faire le point dans l'équipe sauvage avec Axel de Tarlet cette semaine, oui, avec Mathieu Noël bien sûr et Eva Rock, et l'invité d'honneur.
La comédienne et humoriste Camille Chamou et notre équipière sauvage aujourd'hui ensemble. On parle du Champs-Élysées Film Festival et de Sol, un très beau film disponible en VOD. Mais d'abord, j'ai une question très importante à vous poser, Camille Chamou. Mm-hmm. Aimez-vous les grosses cylindrées?
Évidemment, Mathieu, évidemment.
Évidemment. Ah, moi, je voyais plutôt en vélib, un peu bobo, parisien.
J'ai arrêté tout ça. Non, et alors... Non, en plus, c'est un peu drôle parce que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que j'ai toujours détesté la bagnole et j'ai toujours détesté circuler. Vraiment, la meuf qui dit exactement le contraire de ce qu'il faut dire aujourd'hui. Mais en fait, maintenant, j'adore la caisse. Bien polluante. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours été très moyen, tu et tout. Et en fait, j'ai découvert le pouvoir de la voiture sur le mental parce que j'ai beaucoup circulé dans les trois dernières semaines et en fait je me suis rendu compte que c'était le seul truc qui parvenait à me vider la tête, la voiture. C'est-à-dire que quand je suis dans une voiture, j'arrête, quand je trace la route, j'arrête de penser. Ça me fait effet méditation. Donc je pense qu'on s'en fout un peu de la planète si on peut vider mon cerveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
D'autant plus que vous pouvez être dans votre bulle et vous isoler tout en étant dans une voiture électrique.
Propre. Et c'était mon interrogation, voilà. Justement.
Et justement, nous y venons. Parce que l'électrique n'est pas si propre que ça. Vous savez qu'en amont, ça pollue en amont et pas en aval.
Mais non, donc, je ne savais pas, justement.
Eh bien oui, parce qu'il faut produire ces foutues batteries. Et si l'hydrogène était la solution? C'est le thème de la chronique de notre premier concurrent du jour, qui a déjà gagné plusieurs fois Axel de Tarlé dans l'équipe sauvage, mais jamais sans faire le larbin pour séduire l'invité. La semaine dernière encore...
C'était Olivia Ruiz qui était là, et du coup elle m'a donné 2 points, parce que je lui avais apporté un café. Je les avais pris. C'était pas glorieux, mais je les avais pris.
Allez Axel, aujourd'hui, on essaie de gagner à la loyale.
On va essayer. Oui, non, mais vous parliez des voitures électriques. Les voitures électriques, elles ont un problème aussi. Vous avez raison, ça pollue, mais c'est le poids des batteries aussi. Mmh. Dans une Zoé, vous savez combien ça pèse, les batteries?
Allez, j'aurais dit 200 kilos.
300 kilos. Ouais, dans énorme. Une Tesla, il y a 500 kilos de batterie.
Wow.
Donc, si vous voulez jamais.
Grave,
vous
ne...
Ben oui, c'est grave parce que ça demande beaucoup plus d'énergie pour bouger.
Ah oui, pour
alors,
bouger,
pour une
d'accord.
voiture, alors si vous voulez, ça marche très bien pour un vélo, pour une voiture, bon. Mais pour des camions, ça commence à plus marcher. Pour un avion, ça ne marchera jamais. Enfin, un gros avion.
C'est pas ce que dit Bertrand Piccard qu'on a reçu l'autre
un
jour.
Un petit coucou avec une place, oui, ça, ça peut marcher. Mais un A320, vous ne le ferez jamais décoller avec des batteries. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement a débloqué la semaine dernière 1,5 milliard pour qu'on invente l'avion à hydrogène. Alors, ça va être compliqué, c'est pour ça qu'on a dit en 2035, donc on a le temps de...
Je pose la question vraiment qui vient immédiatement à l'esprit pour l'hydrogène et qui est fausse selon les scientifiques, mais l'hydrogène, ça n'explose pas?
Si, bah c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est que l'hydrogène mélangé à l'oxygène, ça crée de l'électricité. Bah oui, mais il s'agit de maîtriser l'explosion. Et c'est cette électricité qui va ensuite faire avancer la voiture. Mais alors, vous voyez, l'électricité, on la fabrique à bord. C'est-à-dire qu'on charge de l'hydrogène, qui est en fait un carburant, de même qu'on charge du pétrole, qui est un carburant. Et en mélangeant l'hydrogène, on va le mélanger avec... Et ça crée l'électricité.
En fait, la voiture hydrogène est une voiture électrique.
Et du pot d'échappement ressort de l'eau.
C'est génial.
Et vous avez les journalistes auto qui mettent, mais bien sûr, qui mettent un verre et c'est filmé à voir sur YouTube et qui boivent l'eau pour bien montrer que ça ne pollue pas. Alors voilà. Et donc c'est la grande nouvelle énergie à la mode. Donc c'est Air Liquide qui a mis en quelques pompes à hydrogène. Mais alors c'est compliqué parce que si vous voulez, l'hydrogène a un problème. D'abord, il faut le fabriquer aussi. Alors vous avez deux façons de le fabriquer. L'hydrogène n'existe pas sur Terre à l'état naturel. Donc il faut le fabriquer. Vous avez deux façons de le fabriquer. Je viens prof de physique, moi. C'est très violent.
Et moi, je suis toujours détesté les cours de physique et là, ça passe crème.
Oui,
et vous avez deux façons de fabriquer de l'hydrogène. Une façon polluante, c'est-à-dire on craque du gaz. Donc en fait, alors là, c'est nul. On utilise de l'énergie fossile. Pour faire de l'énergie propre, mais enfin on utilise
donc,
de
l'énergie. Voilà.
Non, ça non.
Et la façon propre, ce sont vos cours de 5e, élèves de 5e, écoutez-moi.
Oula.
Vous prenez 2 fils d'électricité, plus ou moins, vous les trempez dans de l'eau, et ben vous verrez, d'un côté, vous avez 2 gaz qui vont s'échapper, d'un côté, vous aurez l'oxygène qui s'échappe, et de l'autre côté, vous aurez de l'hydrogène qui s'échappe. En fait, c'est l'électrolyse de l'eau. Et donc, imaginez un panneau solaire trempé dans de l'eau en permanence, c'est un truc qui fabrique gratuitement, indéfiniment, de l'hydrogène. Vous récupérez cet hydrogène et vous le mettez dans une voiture, dans un taxi, et hop, ça avance et vous avez 0 émission de CO2.
Il y en a un qui n'est pas d'accord dans le studio.
Nice n'est pas d'accord, on n'a plus le temps. Nice, en 2 mots, pourquoi c'est pas bien l'hydrogène? Ça a l'air super.
Ah non, mais c'est très bien sur le papier. Il se trouve que quand on fait une voiture à hydrogène, le rendement est de 30%, alors que sur une voiture électrique, il est de 90%.
Mais parce qu'on a plus travaillé sur l'électrique.
Mais non, c'est juste physique. On n'arrive pas à convertir autant.
Alors, ça, je l'ai dit à Air Liquide. Ils me disent, oui, mais... D'où l'intérêt de travailler ces sujets. J'ai dit oui, le rendement est pourri, 30%. Oui, mais c'est gratuit. Le soleil, il est gratuit, il est infini. Donc 30% de l'infini, oui, ça reste de l'infini.
Mais c'était vraiment un débat intéressant.
Je vois qu'il essaie de me noyer maintenant à Nice.
C'est normal, c'est votre rival, c'est normal qu'il essaie. Merci beaucoup, Axel
Camille
de Tarlé.
Je t'attends de pied ferme.
Ah non, je suis pleine d'admiration pour ce qui est en train de se produire.
C'est du haut de gamme,
je m'attendais pas à ça dans l'équipe sauvage.
On fait ce qu'on peut. À Nice, qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez comme ça, Axel de Tarlé?
Les esthéticiennes ne font plus l'interfessie apparemment.
Oh, quel combat.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
En faisant de la fête, les pères. Comprendre le monde sans oublier d'en rire, c'est la devise de Mathieu Noël qui vous accompagne chaque après-midi. Vous écoutez les meilleurs moments. On va retrouver à présent son invité de mercredi, la réalisatrice, cinéaste et écrivain aussi, Lisa Suelos, qui publie La vie en ose.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, ne le dites pas trop à nos concurrents, ça les agace, mais c'est l'émission que les stars préfèrent. Michel Larocque me le disait encore l'autre jour.
On a tellement ri, j'aime tellement rire et il me fait vraiment rire.
Bon, elle parlait de Pierre Palmade, mais je crois qu'elle a bien aimé mon humour aussi. Bref, aujourd'hui c'est Lisa Suelos qui nous accompagne. Lisa Suelos qui a fait tourner Michel Larocque, ça me revient à l'instant. Vraiment, vous avez fait tourner les plus grands. Aujourd'hui, vous revenez avec un livre, La vie en ose, aux éditions Bellefond. Dans ce livre, Alice, c'est le personnage central, aide les mamans à traverser ce moment où il faut vider la chambre de leur enfant pour déménager ou pour la transformer. C'est souvent un moment douloureux que je n'ose imaginer, moi dont le fils a 8 ans, mais il restera toujours probablement à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de leur chambre? Est-ce que vous conservez des reliques? Est-ce que vous avez beaucoup de photos de vos enfants chez vous, Lisa Suelos?
En fait, chez moi, non. Dans des cartons, oui. Après, j'ai lu le livre de Marie Kondo, donc j'ai compris que ce n'était pas la bonne méthode pour être heureuse. Non, surtout, moi, c'est ma folie. C'est que je les filme depuis que j'ai un iPhone qui filme. Et je filme les trucs du quotidien totalement inintéressants. Parce qu'en fait, après, c'est ça qui a de la valeur. Et c'est ces moments de famille. Comme je me suis préparée au fait que cette famille où on vit tous ensemble, à un moment, va se désagréger. J'ai filmé tous ces moments de petit-déj, de quand on est autour de la table, de quand on se dit des trucs cons, voilà. Mais pas les trucs anniversaires où c'est un peu mis en scène. Non, vraiment le quotidien un peu nul.
Et ça, c'est juste pour vous, pour les souvenirs, ou ça peut être un projet cinématographique?
En fait, c'est devenu mon bébé finalement. Et je me suis servi des scènes qu'il y avait dans mon téléphone pour faire mon bébé. Oui. Mais au-delà de ça, parce que j'ai continué depuis, mes enfants, à chaque fois qu'ils voient le téléphone, ils font « Maman, arrête de nous filmer !» Donc voilà, je pense que c'est une névrose. Hein, maintenant, on en est à ce stade-là. Bon, j'espère pas arriver au niveau de la psychose. Et en fait, dans mon projet intérieur, c'est me dire « quand j'aurai du temps », le fameux « quand j'aurai du temps oui. », je prendrai tous ces rushs et je ferai un montage. Et voilà, comme ça. Et même, je me dis, même si je ne me rappelle plus de ma vie, au moins j'aurai le film de ma vie.
Il y a un enseignement dans ce livre aussi que vous donnez. On connaît tous le proverbe un peu con, derrière chaque grand homme se cache une femme. Et vous écrivez, derrière chaque femme qui réussit, il y a une femme qui a osé. Oui. Osé notamment sortir de sa zone de confort. C'est vraiment, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez toujours fait, vous, en fait.
Oui.
Et c'est ce que vous conseillez de faire à tout le monde. Il faut bien prendre conscience que la zone de confort, c'est l'opposé de la zone de routine, en fait. Mmh.
En fait, la routine me fait un peu penser à la rouille. Moi, la routine, c'est la rouille de la vie. Alors, en même temps, il y a quelque chose de super rassurant et de très beau. Moi, j'envie les gens qui sont heureux avec ça, parce que c'est génial de pouvoir être heureux avec la routine. C'est extraordinaire, mais c'est un don que je n'ai pas.
Oui, c'est un don que beaucoup de gens n'ont pas, je pense. Hein,
J'imagine toujours que les gens sont très heureux de faire tout ce qu'ils font. Et
peut-être qu'ils font semblant.
Et qu'il n'y a que moi qui essaye toujours de faire des trucs mieux. Donc voilà, quoi, je ne sais pas.
Mon Dieu, c'est vertigineux. Je suis en train de me psychanalyser moi-même. Je ne sais pas où on va avec cette conversation.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission hybride qui se propose de combiner chaque après-midi l'ivresse de la découverte et le plaisir de la rigolade. Quelle image on pourrait trouver, Eva, pour illustrer de manière à ce que ça donne envie à nos auditeurs?
Un croisement entre un clafoutis et une crème brûlée.
C'est pas grave, pas d'image, l'explication suffit. Avec nous cet après-midi en studio, la réalisatrice et auteure Lisa Suelos. Il y a ce livre, La vie en ose, que je conseille à nos auditeurs. Mais depuis quelques jours, il y a aussi un documentaire exceptionnel disponible sur MyCanal intitulé Yo Love, que vous avez réalisé avec Laure Gomez-Montoya. Alors déjà, que signifie Yo Love, le titre de ce documentaire? C'est un peu jeune, ça, pour
nous. C'est trop jeune pour vous. Bon, je suis désolée, hein, je vais vous faire un cours de jeune. Mais même eux, ils ne l'utilisent pas forcément, donc vous pouvez vous sentir bien. YOLO, ça veut dire You Only Live Once. C'est un peu la manière lolesque de dire Carpe Diem.
Oui.
Et puis, j'ai rajouté VE, comme ça fait YOLO. Ça veut dire que non seulement on n'a qu'une vie, mais si elle n'est pas tournée vers l'amour, en fait, elle n'est que tournée vers la mort. Et c'est nul.
Et oui. Ça, c'est ce que ressentent les jeunes que vous avez rencontrés.
Non, c'est moi qui leur dis yo love.
Voilà, c'est
oui, parce que non, mais parce que le constat de départ, c'est que vous les entendez. Enfin, le début du documentaire,
voilà, quoi,
le début du documentaire, c'est quand même une personne qui a une jeune fille qui a été harcelée et qui raconte toutes les insultes.
Enfin, qui a été violée dès l'âge de 12 ans par le même mec. Personne l'a cru. Elle a dû changer d'école. Elle est devenue sourde parce qu'il l'a tabassée contre un lavabo.
Violent, ouais.
Et ça, c'est une. Mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers des histoires comme ça.
Mais pour autant, quand même, dans le documentaire, vous finissez sur une note très, très positive parce qu'on
toujours
voit qu'avec simplement une intervention de quelqu'un de l'extérieur...
48 heures.
Voilà,
ça a changé la donne.
Qui fait parler les jeunes. Tout d'un coup, d'abord, ils apprennent à se connaître. Et ensuite, vous voyez des messages positifs qui ressortent en quelques secondes.
Mais les budgets pour ces gens-là qui interviennent dans nos écoles, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ont diminué de plus de moitié depuis 7 ans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et
j'ai plombé l'ambiance.
L'ambiance est au top niveau dans l'équipe sauvage.
Il est temps de faire
et
ce quiz. Je sens
temps
qu'il est temps de faire
de
ce quiz.
Le quiz. Alors là. Lisa Azoulay, pour faire écho à vos nombreux engagements pour la cause féminine, on va faire un quiz sur les relations hommes-femmes. Face à vous, une experte, Eva Rock.
Ah bah tu parles.
Alors Eva Rock,
experte
on commence,
de quoi
on, des relations hommes-femmes.
Ouais.
On commence par vous.
Oui.
Atti Retrohage. C'est vraiment comme ça qu'on prononce, à 83 ans en tout cas, c'est ça qui est important.
Oui.
Quelle est la particularité de cette Britannique? Elle a été la première femme garde britannique avec le grand chapeau à poil. Elle a été la première femme à poser à la une d'un magazine à plus de 80 ans, à poil également.
Non, à poil?
Je vous donne les suggestions.
D'accord.
Ou elle enchaîne les conquêtes sur Tinder.
Ah non, je pense la 2.
Hattie.
Ouais.
La première femme à la une.
Oui.
J'aime quand votre regard s'allume comme ça, que je salue. Qu'est-ce une étincelle dans votre œil. C'est une mauvaise réponse.
Ah bon?
Elle enchaîne les conquêtes sur Tinder.
À 83
ans. Et elle a une chaîne YouTube où elle donne des conseils sexo. Elle a divorcé à 55 ans après 25 ans de mariage. Elle estime avoir fait plus de 50 conquêtes sur Tinder. Aujourd'hui, elle est avec Sean, 33 ans. Tous nos voeux de bonheur.
Non, il a 33 ans son homme.
Et pourquoi pas? En quoi ça serait choquant dans ce sens-là?
Oui, bien sûr.
Lisa Azuelos, en France, légalement, une femme n'a pas le droit de porter un cercueil pour des funérailles. Vrai ou faux?
Vrai.
C'est la différence, Eva, entre vous et l'invité.
Ah,
c'est que l'invité a du flair. C'est vrai. Professionnellement, les femmes n'ont pas le droit de porter plus de 25 kilos. Elles peuvent porter jusqu'à 40 kilos si elles utilisent une brouette. Quoi qu'il en soit, interdiction donc de porter les cercueils. Bienvenue en 2020. Lisa Azuelos, Eva Rock.
Incroyable.
Qui a dit si c'est une femme qui me succède, elle devra avoir un visage très séduisant, sinon elle sera inutile.
Ah bah, il y en a un paquet qui aurait pu dire ça. Hein.
Ouais. Sean Connery à propos de James Bond. Tex à propos des amours.
Vous êtes bête.
Ou le Dalai Lama.
Ah, moi j'irai le Dalai Lama.
Vous vous dites le Dalai Lama.
Ouais.
Il faut que je réponde moi aussi.
Oui.
Chacun doit donner une réponse.
Aucune idée.
Qui a pu dire un truc pareil?
Non, mais il est idiot,
oui,
ce quiz.
Mais
hein,
c'est ça qui est bien.
On découvre quand même des choses. Hein, parce que personnellement, moi je le découvre. Hein, Si c'est une femme qui me succède, elle devra avoir un visage très séduisant.
C'est qui le premier?
Sinon, elle sera inutile. Sean Connery, à propos de...
Ça peut pas être Sean Connery, trop classe.
Bien sûr.
Tex, non?
Ça ne peut pas être Tex non plus, parce que ça, c'est une connerie. Si j'aurais d'autres problèmes avec la loi, maintenant, il ne dit plus rien, Tex.
Je sais pas. Alors là, vraiment, pareil.
Eh bien, pareil, c'est une bonne réponse. C'est le Dalai Lama. C'était à la BBC. La journaliste a tout de suite demandé, vous plaisantez.
Et
le leader Moody a dit non. C'est vrai.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Étonnant. Eva Rock, en janvier dernier, dans l'état de l'Iowa aux États-Unis, David Ostrom a fait une proposition étonnante au juge en charge de son dossier de divorce. Il a proposé de défier son ex-femme au sabre. Il a proposé de fixer la pension par un concours de fléchettes. Où il a proposé au juge de se marier avec lui dès que le divorce serait prononcé.
Oh, j'aime bien cette histoire-là. Ah, j'aime bien la troisième, là.
Se marier avec le juge?
Ah, bah oui, c'est plus rigolo quand même qu'un concours de fléchettes ou un concours de sabre.
C'est effectivement plus rigolo, mais c'est la mauvaise réponse.
Je m'en doutais.
Il a choisi le sabre, il a demandé 3 semaines le temps pour lui de fabriquer un authentique sabre de samouraï. Après une petite expertise psychologique, ses droits de visite ont été suspendus.
Ah, voilà, bien fait.
Enfin, cette question va vous départager. Lisa Azuelos, voici 3 slogans de pub. Lequel est faux, sachant que les 3 peuvent être vrais? 3 Suisses, notre point G, il est dans la penderie. Location de voiture Sixt, nous louons aussi aux femmes. Ou, j'aime ma femme, j'aime la Kronenbourg. Ma femme achète la Kronenbourg par 6, c'est fou ce que j'aime ma femme.
Il y en a un seul de faux là-dedans?
Ou alors, ils sont peut-être tous les 3 vrais.
J'ai peur qu'ils soient tous les trois vrais.
Ils sont tous les trois.
Bonne
réponse de Lisa Zoleu. Après, la personne qui prépare le quiz ne m'a pas indiqué. Je ne pense pas que ce soit des pubs récentes. À mon avis, ça remonte quand même à il y a quelques années.
Alors, Six, je pense.
Six, vous croyez que c'est récent?
Oui, je crois que c'est assez récent.
Très bien. Eh bien, nous les embrassons. En tout cas, ce qui est important.
Bisous.
Eh ben, bisous, Six. Et ce qui est important de rappeler, c'est que c'est Lisa Zoleu qui remporte le quiz.
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Dernier jour de la vente aux enchères en ligne organisée par les Vins de Bordeaux pour dire merci aux soignants. On en a parlé cette semaine dans l'équipier sauvage avec Mathieu Noël, Eva Roch et Stéphane Place.
Thomas Dutronc est notre équipier sauvage cet après-midi. Ensemble, on écoute son dernier album Frenchie et on continue de noter les journalistes d'Europe 1 comme des livreurs de bibimbap. Et je vous mets à l'aise, Thomas. Nonobstant le caractère passionnant de chaque chronique, on a le droit de décrocher. Moi-même, qui présente pourtant cette émission, il m'arrive d'avoir des absences, notamment durant la chronique de Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux.
Alors, sympa.
En général, ça ne s'entend pas, mais parfois oui, comme la dernière fois.
Garé, placé, en écoutant le son sur l'autoradio.
Mais une question, Stéphane, le son, il vient d'où? Parce que s'il vient de l'écran,
mais
on n'entend pas très bien.
Le monsieur, il vous l'a expliqué, là.
Ah merde, j'ai pas écouté le son. C'est... Ah oui, Stéphane, enchaîné. Bravo. Aujourd'hui, Stéphane, je vous promets de ne pas envoyer de texto à Eva pendant votre chronique.
Ça vaut aussi pour les sextos.
Pour les sextos. Aussi. Mais je vous envoie pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bref,
vous êtes trompé de destinataire.
Ça doit être ça, c'est à vous. Vous nous parlez aujourd'hui d'une belle initiative en Gironde.
Exactement, les vins de Bordeaux qui se mobilisent pour apporter un soutien financier au bout du compte au CHU de Bordeaux et à l'hôpital de Libourne qui ont été en première ligne évidemment dans la crise et dans l'épidémie de coronavirus. Alors comment font les vins de Bordeaux? C'est très simple, ils ont monté une vente aux enchères avec des vignerons, des coopératives, des négociants, des professionnels de l'onotourisme qui ont apporté des lots pour cette vente aux enchères. Et puis vous pouvez y accéder jusqu'à dimanche soir. C'est une vente aux enchères en ligne et on trouve absolument tous les prix possibles dans le vin. Et il y a des choses très intéressantes, comme l'explique Christophe Château du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
100% de la somme qui sera récoltée sera remise aux hôpitaux de Bordeaux et Libourne qui ont traité du Covid. On a 610 lots aujourd'hui sur la plateforme. Pour y accéder, il faut aller sur le site de bordeaux.com. On a 6 bouteilles d'entre-deux-mer ou 6 bouteilles de rosé offertes par un vigneron, jusqu'à un magnum de Pétrus pour les parties vin. Et puis pour la partie tourisme, ça peut être une visite d'un château ou un week-end de 3 jours dans un château avec dîner avec le propriétaire. Le lot le plus faible, c'était 5 euros et le plus élevé, c'était 4000. On veut aider les personnes soignantes, mais pas que les médecins ou les chercheurs. Partir des gens qui sont au nettoyage jusqu'aux médecins. On a commencé à échanger des devis avec l'hôpital de Bordeaux là, sur des appareils de nettoyage. Il y a des salles de repos des soignants qui sont en mauvais état, qui auraient besoin d'être refaites ou améliorées avec du matériel. C'est vers ces orientations-là que les budgets vont être investis.
La vente aux enchères donc, se terminera dimanche soir à minuit. Il y a du rouge, du blanc et du bon rosé, j'en profite pour le dire, hein, quand même, à Bordeaux, on sait faire aussi.
Oui, vous savez faire aussi le Bordeaux rosé, qui n'est pas non plus la fierté de, du terroir.
Il faudra qu'on organise un débat autour de quelques bouteilles. Hein, si vous avez à peu près suivi le reportage là pour une fois, ça vous évitera de prendre un coup de fil de ma mère Furax. Je vous propose de venir faire une dégustation et puis on débattra de tout ça. Je dis bien une dégustation, hein, parce que le vin, ça se déguste. Hein. Il ne s'agit pas de se mettre à l'envers, évidemment. Ce n'est pas la fête de la bière. Donc voilà, ça c'est quand même un point important. Et puis je suis sûr que Thomas Dutronc, il sera sensible parce que je crois qu'il a une vraie relation au vin. Il ne veut pas intellectualiser les dégustations, ça j'avais lu ça. Mais en tout cas, il aime bien. Hein. Vous aimez bien, il faut le dire.
Ben oui. Je dis bonjour avec le coude. J'éternue dans mon coude et je lève le coude. Je fais que le. C'est le coude
c'est une
en ce moment.
Pratique du coude. Je crois que c'est une belle pratique du coude.
Thomas Dutronc, le Bordelais, c'est votre région en vin ou vous êtes plutôt vin corse?
J'aime toutes les régions. J'aime tous les vins quand ils sont bons. Et c'est...
Oui. Ouais, surtout là, parce que vous avez votre album à vendre dans toutes les régions de France. Vous pouvez pas vous permettre de dire qu'une région est mieux qu'une autre. C'est surtout ça. Mais
non,
mais
attends.
Nous...
Ceci dit, non, mais là, j'ai découvert. J'ai honte d'ailleurs de ne pas avoir découvert ça plus tôt. Mais il y a des Beaujolais en fait qui sont super bons.
Bien sûr, les Bourgons.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Bien sûr, il y a des choses.
J'en avais déjà bu, si tu veux. Mais là, j'ai vraiment repéré parce que. Rapport qualité-prix,
on est mieux qu'en Bourgogne.
Eh oui,
ma bonne dame. Le rapport qualité-prix, on n'y pense pas assez. Merci Stéphane Place. Et on rappelle Stéphane, hein, le vin c'est évidemment avec modération.
Mais toujours.
Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on le consomme à Bordeaux. Mes amitiés, votre femme également, Stéphane.
Ouais, alors je veux préciser quand même, c'est pas moi. Je le dis à mon épouse, c'est pas un enregistrement pirate. Là, je n'ai jamais prononcé des paroles comme ça dans cet état-là. Jamais.
Oui, enfin.
Jamais.
Ça vous arrive quand même aux soirées du CE.
16h-18h sur Europe 1,
l'équipé sauvage.
Mardi, Mathieu Noël accueillait Louis Chédid pour parler de son dernier album, Tout ce qu'on veut dans la vie. Mais on les retrouve aux côtés d'Eva Rock et de la dernière concurrente, Farah Kessri, qui a choisi de parler des papas chez les animaux, cette circonstance.
C'est un poète de la chanson française qui nous accompagne cet après-midi, un poète qui chante l'amour, mais qui pointe aussi du doigt les travers de notre époque.
Les yeux rivés sur nos smartphones et nos cerveaux dans le formol. Moitié robot, moitié homme, on n'entend ni ne voit plus personne.
Alors, il faut dire que c'est un album très gay. C'est l'album oui. Pingu de l'été, mais il y a aussi quand même des chansons comme ça qui posent des questions. Est-ce que vous faites partie, vous, Louis, de ceux qui passent trop de temps, les yeux rivés sur un écran, ou c'est une description plutôt de ce que vous voyez autour de vous?
Je fais partie de moi, je le... Mon iPhone, comme on dit, parce que là, on ne peut pas dire autre chose. Plus, et mon cellulaire. C'est un fil à la patte. Mm-hmm. C'est-à-dire que je l'ai vraiment, je regarde, j'ai tout là-dedans, enfin, comme tout le monde, hein, mais c'est quelque chose qui me rappelle à son bon souvenir sans arrêt. Et il y a des fois où j'ai vraiment envie de m'en débarrasser. C'est une drogue. Et voilà, des fois, je l'éteins complètement et je l'oublie. 5 minutes. Non, j'exagère. Mais un peu plus longtemps que ça. Mais je raconte cette histoire. Je me baladais au parc Montsouris il y a peu de temps. Il y a une allée qui s'appelle l'allée Jacques Higelin, d'ailleurs. Et les gens, il faisait très beau. Au parc Montsouris, il y a un lac des cygnes. Et sur les bancs, comme ça, au bord du lac, il y avait plusieurs personnes, une dizaine de personnes qui étaient là. Et en fait, au lieu de regarder les cygnes, le lac, ils étaient là, ils regardaient leur smartphone. Si j'avais été assis, peut-être j'aurais fait pareil, parce que j'aurais peut-être reçu un texto. Et je me suis dit, oh là là, voilà.
Oui. Et dans les concerts aussi, moi, je me fais souvent la réflexion.
Ah, c'est horrible dans les concerts.
Voir les gens qui passent leur temps à filmer le concert. Mais je vis le concert,
t'as la chance d'être là. D'ailleurs, on peut demander aux gens, et d'ailleurs, ils respectent, de ne pas le faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant des fois. Mais bon, après, c'est un outil extraordinaire à la fois. Je veux dire, moi, ça me relie à tellement de choses que... Et puis, dans la période confinement, les FaceTime...
Ça nous a un peu sauvés aussi.
Ça nous a sauvés. Voilà.
Alors, Louis, dimanche, c'est la fête des pères. Ouais. Nous, les pères lambda, on a un collier de nouilles, un cale-livre en pâte à sel ou une cravate en papier canson. En ce qui me concerne, vous, j'imagine que vous devez vous contenter d'une chanson de Mathieu Chédid ou d'Anna ou encore de Joseph. Pas de bol. Mais comment ça se passe chez les animaux? La fête des pères est-elle très fêtée? C'est la question très pertinente que j'ai posée à Farah Kessri, notre veto, qui m'a heureusement réorienté vers une autre question plus intéressante. Quel est le rôle du père dans le règne animal? Il se trouve, Farah, qu'il y a toutes sortes de pères en fonction des espèces.
Absolument. En tout cas, les super papas, vous risquez pas de les trouver chez les insectes ou chez les reptiles. Il y en a pas vraiment. Ce sont simplement des reproducteurs. En revanche, chez les oiseaux, il y en a quand même pas mal. Surtout le flamant rose. Le mâle est totalement dévoué à sa progéniture. Il va couver l'œuf avec la femelle à tour de rôle, hein, des jours entiers sans même se nourrir. Et après l'éclosion, il va s'occuper du petit en le nourrissant grâce à son bec. Et c'est lui qui va aussi l'emmener à la crèche, puisque chez les flamants roses, les petits sont regroupés pour qu'ils soient bien protégés. Et vous avez vraiment des espèces de grandes crèches où il y a plein de mâles adultes qui vont les surveiller. Ce sont vraiment des papapoules. Et c'est le papa aussi qui va lui apprendre à voler de ses propres ailes.
Alors, les papapoules, c'est touchant, mais vous nous avez parlé tout à l'heure des papas accoucheurs.
Alors oui, là c'est un crapaud. Son nom scientifique, c'est Lalite obstétrique. Il est surnommé le crapaud accoucheur parce qu'il faut savoir que le mâle va se placer sur la femelle quand la femelle va vraiment mettre bas. Pour accomplir donc sa fonction de futur papa, qu'est-ce qu'il va faire? En se plaçant sur le dos de la femelle, eh bien, il va s'agripper avec ses pattes avant et avec ses pattes arrière. Hein, vous voyez bien un peu les pattes arrière d'un crapaud, ça a quand même 5 petits doigts. Eh bien, avec ses doigts, il va aller récupérer les œufs qui sont à l'intérieur de la femelle, un à un. Il y en a entre 15 et 80 œufs.
Ah, c'est du boulot, oui.
Il va les féconder, puis il va devoir les porter sur son dos. Et comme la reproduction et la fécondation chez cette espèce se fait hors de l'eau, il va devoir les hydrater.
Comment ?
Et il va les hydrater avec quoi ? Eh bien, tout simplement avec son urine.
Ah, parce que merveilleuse nature.
À distance d'une source d'eau. Donc, comme il est loin de l'eau, donc forcément, bah, c'est tout ce qu'il a, c'est son urine. Et il va devoir le faire pendant des semaines et des semaines pour, jusqu'à l'éclosion de ses œufs.
Sympa d'être une femelle
crapaud. Donc, vous voyez, c'est un super papa quand même.
Ah oui, lui, c'est un super papa. Et chez les animaux, il y a même des mâles qui tombent enceint, si on peut dire.
C'est
le cas de l'hippocampe.
On dit enceint, mais c'est pas très joli. Donc ouais. Oui, c'est l'hippocampe. Ouais. Et vous avez une trentaine d'espèces d'hippocampe. C'est toujours le mâle qui va être en gestation. Donc, il va faire sa grossesse. C'est le terme, la gestation, c'est le terme pour les animaux. Il a une poche qu'on appelle la poche incubatrice, qui est vraiment située dans la partie ventrale de l'animal. Et à la saison des amours, c'est la femelle qui va aller rechercher un mâle. Elle va rechercher un mâle qui a une poche vide, et les deux vont s'accrocher l'un à l'autre en nouant leur queue, et la femelle va transférer ses œufs vers la poche du mâle. Le mâle, lui, va fertiliser les œufs à l'intérieur de cette poche, et c'est lui qui va les couver. Il va rester seul. La femelle, en fait, elle a donné ses œufs et elle se barre pour refaire sa vie. Donc c'est quand même assez cool dans cette espèce. Hein. C'est vraiment l'inverse. Vrai. Moi, j'ai pas du tout cette image dans l'espèce humaine, mais le mâle chez les hippocampes se fait pas vraiment avoir parce que au moins lui, il est sûr d'être le père, et c'est pas toujours le cas chez les autres espèces animales.
Qu'à travers cette chronique, vous avez réglé quelques problèmes personnels, peut-être au sein de votre couple, mais je vous remercie en tout cas.
Je pense beaucoup de maman.
C'était très intéressant, merci Farah Kassri. Et à l'issue de cette chronique, j'aurai une pensée émue pour mon papa à moi qui n'est plus là, mais qui me disait toujours:
si tu continues sur cette pente, tu finiras comme un clochard drogué.
Il aurait été si fier de voir que je ne suis pas devenu clochard.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
On souhaite une bonne fête des pères à tout le monde. Vous retrouverez Mathieu Noël et sa bande dès demain 16h sur Europe 1, avec pour débuter la semaine, Benabar. Dans un instant, place au grand journal du soir avec Wendy Bouchard.